Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebeketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 octobre 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 6 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résilience, bonsoir. Je ne sais pas ce que c'est la résilience, hein?
Non, mais on attend l'explication.
Je vais vous le dire dans deux minutes. Mais d'abord, je voudrais annoncer la bonne nouvelle de la présence parmi nous de M. Bruno Gollnisch, député européen.
Bonsoir.
Et qui est, je vais essayer, mais une chance sur deux de me gourer, secrétaire général du Front National.
Délégué général, vous êtes tombé. La tartine est tombée du mauvais côté.
Moi, j'arrête parce que...
Le secrétaire général, c'est Karl Lang.
Les fonctions et les prénoms, ça marche jamais.
Une fois je ne suis pas vexé.
Il n'y a pas lieu, parce que c'est les deux fonctions se vaut ou se valent, comme disait mon camarade... Non, pas Goffman.
C'était Vaugelas sur son livre.
Vaugelas, voilà, mon camarade Vaugelas. Je m'en vais ou je m'en vais, les deux se disent ou
l'un
se disent.
L'un ou l'autre, l'un et l'autre se disent.
Alors voilà, après avoir étalé mon inculture, donc je signale la présence de Bruno Gollnisch. Nous attendons également M. Jean-Michel Dubois qui viendra nous parler des BBR. Et en deuxième partie, je recevrai Jean-Gilles Maliarakis. C'est bien parce qu'on s'invite comme ça. Non, mais c'est parce qu'il publie un bouquin tout à fait passionnant en tant qu'éditeur. Et puis, il a été le témoin d'une cérémonie considérable, d'une considérable importance politique, spirituelle, philosophique, historique, qui a été le transfert des cendres du général Anton Ivanovitch Denikin, chef des armées blanches, de Washington à Moscou, en passant par Paris, puisqu'il y a eu une très belle cérémonie rue d'Arrue à Paris. Il nous en parlera et il nous dira pourquoi c'est un événement important. Et puis je recevrai également le docteur Philippe Nuham, médecin urgentiste, qui nous présentera son livre « La médecine des urgences ». Et voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant j'ai une très grande nouvelle. Alors la résilience, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la résilience? Et j'ai découvert le mot, je l'avais entendu mais je ne savais pas bien ce qu'il voulait dire. Mais j'ai découvert le mot dans la bouche de monsieur Lucien Léger, qui a été libéré récemment et qui est interviewé par Europe numéro 1, a dit qu'il était très content de sortir, ça, je le comprends un petit peu, après 41 ans de prison.
Pour l'assassinat du petit
Luc. Du petit Luc Taron. Ça, je suis non, moins sûr.
Que les...
Alors, il y en a qui sont pas contents, c'est les voisins de l'endroit où il est hébergé. Mais bon, c'est comme ça. Et il a dit, je fais, ou je subis, ou je pratique, ou je ne sais quoi, la résilience. Alors, comme il a eu le temps de se cultiver en tôle, il a dit, vous ne savez pas ce que c'est la résilience? Non, je sais pas. Et je répondu in petto. Et la résilience, c'est la capacité de récupérer très rapidement à la suite d'un événement fâcheux. Il y en a un qui n'a pas récupéré, c'est le petit Luc Taron. Mais lui, l'assassin, on sait qu'il a récupéré, on est bien content. Et alors, il a ajouté que quand un événement le frappe, il se relève aussitôt sans que ça le touche. Ce qui est, on se doutait bien que c'était un type dans ce genre-là. Mais je crois qu'on n'a pas fini de rigoler avec lui. Voilà, donc ami de la résilience, bonsoir, c'est bien ce que je voulais dire. Il y a quand même une bonne nouvelle dans l'horrible portrait de l'actualité qui nous est donné tous les jours. Et cette bonne nouvelle, elle nous est apportée par notre ami Henri de Lesquin, président du club de l'horloge. Mais je ne sais pas si lui considère que c'est une bonne nouvelle, mais pour moi, rien ne saurait me faire plus plaisir. En effet, il annonce dans un fort beau dépliant qu'au pavillon Henri IV, 19 et 21 rue Thiers, Saint-Germain-en-Laye-Yvelines, se déroulera le samedi 19 et dimanche 20 novembre la 21e université annuelle du club de l'horloge, dont le thème est, et c'est ça la bonne nouvelle, la République est en danger. Voilà. Voile islamique, polygamie, communautarisme, discrimination positive, mondialisme, effacement des frontières, primauté du droit européen, supranationalité, impuissance de l'État, corruption politique, on a l'impression de lire le Libre Journal, montée des corporatifs, privilèges syndicaux, pression de l'extrême gauche, persistance des idées marxistes, appel à la lutte des classes, atteinte au droit de propriété, à la liberté d'entreprise, matraquage fiscal, restriction de la liberté d'opinion, dictature du politiquement correct, désinformation sur la nation et la République. Donc la République est en danger.
Pas en danger de faire place à une monarchie, si j'ai bien suivi.
On n'en sait rien, vieux. Ah, tiens, c'est bien possible, puisque...
Je peux donner l'information.
On va demander...
Ce matin, Son Altesse Royale, Monseigneur le Comte de Paris, Duc de France, est candidat à la présidence de la République en 2007. Affaire
voilà,
à suivre.
Voilà.
Ah bon ? Si ça marche comme pour le reste...
Le prince président. Ils nous ont déjà fait le coup, les princes présidents, mais ça recommence.
Voilà. Et c'était dans l'autre dynastie.
Oui. Oh, bah, de toute façon, elles sont toutes bonnes. L'essentiel, c'est qu'on ait un chef. Et pas qu'il soit partisan d'extinction du paupérisme après 10 heures du soir. Un vrai.
Serge de Beckett, je vous permettez une petite anecdote croustillante. On a entendu les partisans blancs, là, notre générique, et puis vous avez annoncé Maliarakis pour le transfert des cendres de Denikin. Événement de portée internationale que nous comprenons, contrairement à la totalité des autres médias qui n'en ont fait aucune mention, puisque il représente, de par la volonté du président Poutine, un geste décisif de réconciliation nationale en Russie, et c'est une telle puissance. Son Excellence, le président Vladimirovitch Poutine, et il s'agit de réconciliation nationale dans une telle puissance, un pays si puissant, si important, que c'est évidemment un événement international. C'est sans doute pour ça que le Libre Journal est le seul, non seulement à signaler l'événement, mais à mettre Denikin en couverture. Alors voici enfin l'anecdote. J'étais dans le métro tout à l'heure, et à côté de moi, une Russe du plus beau blond conversait dans sa langue natale avec une Russe du plus beau noir, ce qui est déjà pittoresque et pas fréquent.
Ça, c'est du panslavisme où je ne m'y connais pas.
Voilà. Et oui, nous laverons nos bottes dans les mers du Sud, etc. Et alors, avec ma délicatesse et ma générosité coutumière, je lui donne le journal au moment de descendre. Elle descend aussi, elle me poursuit, et puis elle me dit « Je n'ai pas vouloir votre journal communiste.
» T'as vraiment pas de chance avec les femmes. Hein.
Il est maudit. Journal communiste. Communiste à gazette.
Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est très émouvant. J'étais avec Jean-Marie Le Pen et soixantaine de nos sympathisants en Russie en juin dernier, et nous sommes rendus sur le tombeau des Romanov, et en particulier bien sûr de la famille de Nicolas II à Saint-Pétersbourg. Mm-hmm. C'est très émouvant.
Mais c'est extraordinaire d'ailleurs cette espèce de simplicité avec laquelle la Russie a retrouvé ses racines, a renoué avec son passé sans heurts. Alors que nous, 200 ans après la Révolution, on est encore en train de se bouffer.
Absolument.
Toute la crevure révolutionnaire continue de sévir et la République est toujours là. Enfin, Dieu merci, elle est en danger, comme nous le dit.
Avec espoir.
Comme nous le dit. Non, lui, il ne le dit pas avec espoir. C'est moi qui mets de l'espoir là. Lui, il est républicain, l'esquin.
Ce qui est grave, c'est que c'est surtout la France qui est en danger. Mais je pense que.
Oh, mais une fois que la République sera tombée, ça ira beaucoup mieux.
Henri de Lesquin l'entend bien ainsi, j'en suis sûr.
La France, la République.
Oui.
Alors, en tout cas, je voudrais d'abord protester, d'abord signaler que Jean-Michel Dubois vient de faire son entrée dans ce studio. Bonsoir, cher ami. Et puis, m'élever avec véhémence contre un nouveau scandale. Que moi, je trouve ça vraiment intolérable. J'ai appris en venant que Monsieur Charles Pasqua, ancien ministre, était de nouveau mis en examen pour une affaire de abus de biens sociaux, pas sociaux d'ailleurs. Je crois qu'on lui reproche d'avoir touché des pots de vin. Enfin, est-ce que vous imaginez une chose pareille? Un homme qui a été ministre, je sais pas combien de fois, 3 fois, 4 fois, ministre de l'Intérieur. Ah oui, non, mais ça, c'est pas possible. Alors, écoutez, je voudrais m'adresser au magistrat. Moi, vous pouvez me poursuivre, évidemment, j'ai jamais été ministre et tout, donc on peut supposer que je suis quelqu'un de malhonnête, de crapuleux, que j'écris des choses, mais un ministre de la République qui est en danger.
Officier de la Légion d'honneur.
Officier de la Légion d'honneur, qui entretient les meilleures relations avec Israël, avec les pays d'Afrique, avec tout le monde, enfin il est ami. En plus, il suffit de le regarder pour voir, cet homme-là, putain, il était résistant à 14 ans. Ou 12 ans, je ne sais pas à quel âge, mais enfin, il était résistant. Cet homme-là, il irradie littéralement l'honnêteté, la franchise, la bonté, la simplicité, la distinction. Non, mais... Moi, vous savez vous faire rire qu'on accuse quelqu'un comme ça, mais moi, je trouve ça extrêmement grave. Parce que vous comprenez, on commence par dire que Pasqua aurait touché des pots de vin. Après, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Chirac... franchement. On est au... Je vous le dis, je m'adresse solennellement au magistrat. Attention, nous sommes au bord du gouffre. Et c'est à cause de trucs comme ça que la République est en danger. Comment voulez-vous qu'après, les citoyens aient encore confiance dans leurs dirigeants politiques? Et surtout qu'on sait comment ça va finir, puisqu'il y a 15 jours, le président de la République a appris, même pas les 15 jours, la semaine dernière, je le dis dans... Écoutez, je vais vous donner quelques événements qui sont déroulés. Récemment, la justice doit être plus prudente que ça, parce qu'on annonce des trucs et tout. Bon, alors le résultat, la Cour de cassation a définitivement clôturé l'information judiciaire pour détournement de fonds publics et fonds en écriture, ouverte en 2002 à propos des frais de bouche des époux Chirac, qui régnant à l'hôtel de ville de Paris entre 1987 et 1995, ont dépensé 2,13 millions d'euros, 14 millions de francs, en frais personnels liés au logement de fonction occupé à la mairie. En fait, c'est de la bouffe. Mais vous, ça vous paraît beaucoup, parce que enfin, ça a duré entre 87 et 95, ça fait 8 ans. En 8 ans, dépenser 14 millions de francs pour la Totor, pour des gens comme ça, ça fait en gros 2 millions de francs par an. Il n'y a pas de quoi quand même, hein? On va pas en faire un fromage, d'ailleurs, un plateau de fromage, on pourra en faire. Bon, non mais c'est vrai. Alors là, on a
restaurant, non?
Non, j'ai plus de tickets. Non, justement, c'est vrai qu'il avait supprimé les tickets restaurants pour le maire, justement par en revanche, Delannoy. Et là, il y a de l'héroïsme là-dedans. Je vous rappelle qu'il avait fait transformer les appartements personnels du maire en crèche. Or, s'il y a une chose par laquelle Delannoy n'est absolument pas concerné, c'est la crèche.
Ah, je crois qu'il aime beaucoup les enfants.
Non, pas d'accord. Nous, les travaux se poursuivent pour avoir des enfants.
D'accord. Mais pour l'instant, ça n'a pas donné beaucoup. Alors, voilà, donc une chose, la Cour de cassation annule la procédure contre Chirac. C'était pas la peine de la faire, cette procédure. D'autres, la Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques a acquitté 8 jeunes de la cité de Louse-des-Bois à Pau, qui étaient accusés d'avoir incendié au cocktail Molotov un commissariat de quartier. Comprenez, ça c'est, comment dirais-je, c'est des actes d'incivilité qui sont fondés sur les problèmes existentiels de cette jeunesse désespérée qui ne trouve pas de travail. Et il y a plus désespéré encore quand elle en trouve.
Et qui est en but au racisme.
Qui est en but au racisme quotidien. Donc, bon, ils foutent le feu à un commissariat. Bon, en plus, c'était même pas eux. Hein, si ce n'est toi. Bon, après le Conseil supérieur de la magistrature, suivant les réquisitions du représentant du ministère, a autorisé le juge Zamour, ça c'est un nom comme il disait, Zamour, c'est un petit Zamour, c'est trop mignon, vous savez ce qu'il faisait le petit Zamour? Ben il s'aimait lui-même, voilà. Il faisait ça dans la salle du tribunal.
Bon, ce qui est extraordinaire,
on l'a mis en accusation pour ça.
Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que la même affaire exactement vient d'éclater aux États-Unis, et le juge, donc qui s'adonnait au même sport mais avec une espèce de pompe à vélo adaptée, est menacé de 10 ans de prison par infraction.
Mais qu'est-ce qu'ils appellent une infraction dans ce cas? Bref, passons.
Monsieur Zamour a été victime d'une manipulation.
Oui, je crois. Enfin, maintenant, il peut sortir les mains propres et la tête haute. La Cour d'appel de Paris a rendu 135 millions à M. Tapie. Voilà un homme encore. Comprenez?
Elle s'est trompée.
En plus, elle a oublié
Bagatelle, 10 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est que 10 millions d'euros par les temps qui courent?
Ça faut qu'il y ait un cheval. Un cheval qui court à l'Arc de Triomphe, en dehors de ça. Bon, non, mais franchement, vous regardez Tapie, c'est comme Pasqua. Voilà des hommes qui sont...
Quand même, hein, sont représentatifs d'une honnêteté.
En plus, il sait tout faire, cet homme-là.
Ah oui.
Moi, je l'ai connu, il était marchand de téléviseurs. Vous savez comment il vendait des télévisions? Ça prouve que c'est un génie, hein, blague à part. C'était tout à fait à l'époque... tout à fait au début de la télé. Personne n'avait la télévision, alors très très peu de gens. Alors il allait dans les appartements, dans les cités, qu'on n'appelait pas les cités à l'époque, et il disait aux gens, voilà, nous faisons une expérience sociologique, on va vous confier un poste de télévision, vous allez le regarder pendant une semaine, puis vous allez nous dire ce que vous en pensez. Alors le mec prenait, c'est gratuit? Oui, oui, bien sûr, c'est gratuit. Il prenait le poste. Alors il leur laissait, je dis, 8 jours, c'est peut-être un mois. Et au bout d'un mois, il arrivait, il disait, bon, je viens chercher le poste. Et les mecs, ils étaient complètement accros. C'est exactement comme si on leur avait dit, on va vous donner un shoot d'héroïne tous les matins, puis au bout d'un mois, vous nous direz ce que c'est, puis on arrête. Alors, les gens disent, non, vous n'allez pas reprendre la télé. Ah ben si, moi, je ne vends pas de télé, moi, je suis là uniquement pour l'expérience. Mais on ne peut pas l'avoir, le poste. Ah ben si vous voulez, alors là, bon, bah écoutez, faites-moi un chèque, et puis j'arrangerai ça avec ma direction.
Que la télé soit une drogue dure, Serge, le sondage annuel de Télérama vient de le prouver, puisque vous avez vu, oui, comme moi, que les Français sont mécontents de la télévision à 53%, mais ils la regardent quand même pendant 3h24 minutes par jour en moyenne. Ils sont mécontents de leur télé, de même que la plupart des drogués sont très mécontents de leur dealer.
et après, on s'étonne d'avoir 3000 abonnés, même pas au Libre-Journal, franchement. Arrêtez de regarder la télé, lisez le Libre-Journal, je vous le dis. Le parquet a ordonné la remise en liberté des syndicalistes qui avaient détourné le bateau de la SNCM. La chancellerie a autorisé la libération de Lucien Léger, qui a dit qu'il était parfaitement en forme. Il a dit, je suis très en forme, ni cholestérol, ni crise cardiaque. Voilà, il est content.
Pas tout à fait content. Est-ce que c'est pas lui qui va tourner vers...
Si, quand même, il est content qu'à moitié, parce qu'il trouve qu'il est resté trop longtemps en prison pour un truc, franchement.
Ouais,
et alors, il a un groupe d'amis qui ont porté plainte auprès de la Cour européenne de justice pour faire condamner la France pour l'avoir maintenu si longtemps en prison, 41 ans pour avoir tué un enfant, quand même. Hein, c'est, il faut pas charrier. Et donc, qui vont réclamer des dommages et intérêts, quand même.
C'est terrible.
Une indemnisation.
Alors, soulignons, alors, Serge, pardon, est-ce que vous venez de faire la chronique judiciaire de la semaine écoulée. Tout ça en une semaine.
Oui, oui, oui. Alors, résilience a été employée par Boris Cyrulnik. Ah, bah alors, Serge de Beketch ne faisant pas lire ou très peu les messages.
La
mais
preuve.
M. de Rostolland ayant dit sur cette antenne que Martial Bill...
Alors, j'ai pas compris. Alors,
ça parle français. C'est probablement mal.
Je n'ai pas vouloir ton journal et ta radio communiste.
Non, mais je vais vous lire le texte. C'est probablement un bon. Serge Beketch ne faisant pas lire ou très peu les messages, mais Monsieur de Rostolland ayant dit sur cette antenne que Martial Bill l'est trié auprès par Bruno Gollnisch. Voilà.
Non, je puis assurer que Martial Bild,
qui n'est pas là,
est mon adjoint, qui n'est pas là, il lui arrive de peut-être de passer à Radio Courtoisie comme invité, et quand je suis moi-même invité à Radio Courtoisie, ce n'est pas lui qui trie les messages. Il ne fait pas partie des membres de la permanente de la radio.
Donc je n'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, c'était pro.
Voilà la preuve que les messages sont lus.
Voilà au moins.
Même mauvais.
Et quand je l'ai lu.
Et je souhaite répondre à tous les messages qui seront.
Ça c'est convenu.
Adressés.
On les entassera et on vous les lira tout à l'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche, si vous en avez entendu parler, vous me le dites, un attentat à la bombe à gaz a eu lieu dans la cathédrale de Limoges. Est-ce que vous êtes au courant de ça?
Non. Non.
Vous n'êtes pas au courant parce que personne n'en a parlé, parce que la préfecture a interdit aux journaux d'en parler, et en disant que au moment... Alors pourquoi donc? Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'ouverture du Ramadan. Alors vous allez m'expliquer pourquoi on ne peut pas dire qu'un attentat à la bonbonne de gaz a eu lieu dans la cathédrale de Limoges le jour du Ramadan. Moi je voudrais qu'on m'explique. Il y a eu 5 personnes qui ont été arrêtées, remise en liberté. Voilà. Alors, je comprends pas.
Mais elles ont été remises en liberté, mais sont-elles mises en examen?
Oui, mises en examen.
Elles sont mises en examen.
Oui, absolument. Mises en examen.
Et on les remet en liberté.
Il n'y a plus de place dans les prisons.
Il y a un cadavre suspect dans une mosquée.
On met pas les gens en prison le jour du Ramadan. Enfin, c'est vraiment.
Un cadavre suspect dans une mosquée le jour du Ramadan. Est-ce que vous en voulez?
Ah oui,
j'ai entendu parler.
On a trouvé.
Voilà, lundi, le cadavre d'un homme d'une trentaine d'années a été découvert dans le sous-sol de la mosquée située rue Jean-Pierre Timbaud à Paris 10e.
C'est la mosquée salafiste de Paris.
Voilà, il avait le larynx brisé, des traces de coups, mais les raisons du décès sont inconnues. On a arrêté une douzaine de personnes. Certaines sont en situation irrégulière en France, ont précisé les policiers.
Oh, c'est curieux, ça, dans le 18e arrondissement, mais.
Non, c'est dans le 11e.
Timbaud, oui.
C'est encore plus étonnant. Oui. La culpabilité de Lucien Léger n'est pas évidente, et vous nous dit un auditeur qui ajoute, son avocat, Maître Alberneau, après avoir plaidé coupable, a déclaré qu'il était persuadé de son innocence.
Oui,
bon. Ouais, alors évidemment, si l'avocat pense qu'il est innocent,
c'est peut-être la faute du gosse, en fait.
Oui.
Il a qu'à pas être là.
Voilà. Merci d'avoir invité Bruno Gollnisch. Ne pensez-vous pas que ceux qui entament des négociations avec la... Oui, ben ça, on en parlera tout à l'heure. Avec la Turquie, sont intoxiqués. On lira votre question, cher monsieur, tout à l'heure. Pour l'instant, je termine avec l'actualité. Il nous reste encore quelques minutes. À moins que ça ennuie quelqu'un.
Non, est-ce qu'on donne l'impression, non?
Voilà une lettre que j'ai reçue. Écoutez bien, parce que ça c'est quand même absolument énorme. Lors d'un stage très récent en vue de l'obtention d'un brevet de secouriste en Bretagne, il a été très clairement dit aux stagiaires qu'en cas d'appel au 15 urgence médicale, on n'enverrait pas de secours si le patient a plus de 70 ans. En outre, depuis peu, un central regroupant les appels fait qu'on ne tombe plus sur son généraliste même en plein jour et pendant les heures de consultation. On obtient un numéro sans savoir quel médecin on va contacter. Avant cela, on a subi un interrogatoire serré, quasi policier, qui détermine si on a droit ou pas aux soins.
Ouais.
Un stagiaire ayant annoncé au cours de ce stage qu'il indiquerait donc systématiquement que son patient ou la victime de l'événement pour lequel il intervient à moins que l'âge limite, s'est entendu dire par le chef de stage que c'était interdit et qu'il s'exposait à des sanctions. Le chef de stage a précisé qu'il avait pour ordre, parce que alors on a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le chef de stage a dit, moi j'ai reçu l'ordre de vous informer de ça, pas d'ouvrir un débat là-dessus. Alors ils ont posé la question aux pompiers, et les pompiers conjoints non par le 15 mais par le 18 ont répondu quant à eux que leur code de déontologie fait qu'ils se déplacent pour tout le monde. Un stagiaire a alors fait remarquer, non pas aux pompiers mais au chef de stage, qu'une femme âgée était décédée en Bretagne justement cet été, justement à la suite d'une non-intervention après un appel au secours, et le chef de stage n'a pas répondu. Ça, c'est une affaire absolument gigantesque.
Absolument,
c'est vrai,
c'est énorme.
Mais évidemment, on ne peut pas payer, comme le fait le ministère de la Santé, comme on le raconte dans le livre journal, des millions d'euros pour imprimer des cartes postales pornographiques où on voit des messieurs en train de se faire des gratteries. Carrément, hein. Cartes postales. Bon. au nom de la lutte contre le sida et de la promotion du préservatif, et puis continuer à soigner les gens au-dessus de 70 ans, comme disait Attali. Hein,
ah voilà. Ouais. Les cartes postales, voilà. C'est le rude final.
Alors... Contrairement à la... Vous n'êtes pas sérieux, Marquis. J'avais déjà remarqué. Hein. Contrairement à la concurrence, les marins de la SNCF, ça n'a pas été beaucoup dit, bénéficient de conditions statutaires très avantageuses. Ils partent à la retraite à 55 ans. Les personnels touchés par le plan social partiront, eux, dès 50 ans. Ça fait 9 ans que je devrais être en retraite, moi. Avec un salaire quasi équivalent. De plus, compte tenu des services en mer, les marins ont droit à 6 mois de congé par an. Attends, la SNCF,
an, oui.
C'est quand même la Société Nationale Corse Méditerranée. Hein.
Oui, c'est
vrai. On avait dit qu'il y avait un double oxymore dans le syndicat des travailleurs corse. Un syndicat de travailleurs, ça n'existe pas. Et pour le reste, je vous laisse deviner. Donc, de plus, compte tenu des services en mer, les marins ont droit à 6 mois de congé par an et bénéficient de nombreuses primes et avantages salariaux. Le salaire moyen est de 2700 euros mensuels. Pourquoi on est journaliste, nous ? Qu'est-ce qu'on sent le kikine ?
C'est pour mener les gens à bateau, justement.
Ouais. Oui. Voilà ce que je voulais vous dire.
Sur la SNCM, Serge, j'ai le canard enchaîné sous les yeux. Et page 5, il y a un nommé Jean-Luc Porquet qui reproche au gouvernement d'avoir mis fin à l'acte de piraterie sur le Pascal Paulus en disant les hélicos attaquant le ferry détourné par le syndicat, les commandos du GIGN, il n'y a pas mieux pour engager une concertation sous de bons auspices. Donc lui, il voudrait qu'on réponde par la concertation aux pirates. Seulement dans la page d'en face, page 4, il y a son confrère Cabu qui représente avec son talent habituel donc les syndicalistes de la SNCM en pirate. Et il leur fait dire ceci, il file un mauvais coton au Cabu, hein. Il approche des 70 ans, il dessine là, dans le même journal, il représente un voleur, il lui fait une tête d'arabe, et là, il fait dire l'imagination de l'artiste,
oui.
Il fait dire aux pirates, nous exigeons que l'État tout colonialiste tout, continue à subventionner à fond perdu, ou Barco Pascal Paoli. Mais on l'embauche dans le libre journal.
Lingou Corsou. Ben oui, ça m'étonnerait moi, il a cessé de me parler le jour où il a su que j'étais à minute quand j'étais à pilote. Ça s'est arrêté comme
mais
ça.
Mais vous n'avez pas l'impression qu'il évolue ?
Ah ben, depuis 30, 40 ans, c'est possible qu'il...
Peut-être que Cabu boira.
Tout arrive. Tout vient à point qui sait attendre.
Un responsable du futur musée des arts premiers a déclaré au sujet d'un artiste, ouvrez les guillemets, arborigène...
Arboricole ?
Arborigène. Alors, l'ami qui m'envoie l'information me dit... C'est normal qu'ils disent arborigène, parce que si l'homme descend du singe, le singe lui descend de l'arbre. Et donc, il a déclaré à propos de cet artiste arborigène, c'est un grand peintre, ses tableaux coûtent très cher. Voilà. Claire Chazal a annoncé une cérémonie pour commémorer la mémoire des victimes des attentats. Françoise Laborde a évoqué les Français de confession musulmane qui sont plutôt laïques.
Oh là là.
Un journaliste de la télé a parlé d'un acteur en disant comme il est alsacien, il a l'accent mosellan.
Oh là.
Voilà.
Et nos auditeurs vont encore nous envoyer des messages pour nous reprocher d'avoir dit un auditeur
aujourd'hui au lieu d'aujourd'hui.
Voilà. Et il ne faut pas que votre escalier devienne un problème. Ça, c'est un slogan publicitaire pour une maison qui, probablement, fabrique non pas des problèmes, mais des escaliers. Voilà. Donc, tous ces motifs de réjouissance étant énumérés, je me tourne maintenant vers Bruno Gollnisch pour lui demander... Enfin, n'en faites pas trop, quand même.
Fayot.
On va passer pour les sympathisants, alors que nous sommes des journalistes libres et indépendants. Hein ? Quand même pas. Alors, quel événement dans l'actualité en ce moment retient plus particulièrement votre attention, Bruno Gollnisch ?
Ben, il y en a beaucoup. Il y a la libération de l'assassin du petit Aaron que vous avez mentionné. Et qui pose quand même un problème parce que la quantité de récidivistes qui sont remis en liberté est extrêmement préoccupante. Et il est tout à fait clair que notre système de protection pénale ne protège pas les victimes innocentes, puisque je suis en train de faire avec notre ami Thibault de la Tocnay la recension
générale des personnes qui ont perdu la vie du fait de récidivistes qui auraient dû être en tout cas hors d'état de nuire au moment où ils ont commis leur deuxième, troisième, dixième quelquefois dans le cas de Fourniret forfait. Et puis dans un autre domaine, il y a évidemment l'ouverture des négociations avec la Turquie qui est extrêmement inquiétante et qui a donné lieu à une séance de tartufferie prodigieuse, puisque comme vous le savez, la Turquie a exclu de l'acte par lequel les négociations sont ouvertes la République de Chypre, qu'elle a déclaré ne pas reconnaître. J'ai lu sous la plume d'un de vos confrères, une consoeur plus exactement, que ça n'avait pas de valeur juridique. Ça a tout à fait une valeur juridique. La Turquie déclare qu'elle ne reconnaît pas un des membres de l'Union européenne, ça s'appelle une réserve à un traité. Je ne veux pas que le traité que je m'apprête à signer entre en vigueur entre moi et telle autre partie. Cette réserve à un traité aurait dû, en droit, appeler une objection à la réserve, c'est-à-dire que les autres parties contractantes auraient dû dire, eh bien, dans ces conditions, les négociations ne s'ouvrent pas, puisque nous n'acceptons pas que la Turquie prétende exclure unilatéralement un membre de l'Union européenne à laquelle elle souhaite adhérer. Tel n'a pas été le cas. Il y a eu une déclaration tout à fait alambiquée dans laquelle on déplorait, mais on disait que ça s'arrangerait peut-être, etc., qui équivaut en réalité à une acceptation du comportement de la Turquie. Et tout ça préjuge très mal des négociations qui vont s'ouvrir.
C'est extraordinaire, parce que ça veut dire que vous fondez un club de, je sais pas, des fumeurs de pipe, et vous avez un type qui veut rentrer au club des fumeurs de pipe, mais qui dit, je veux bien rentrer dans ce club, à condition que M. Tartomol en soit chassé.
Oui, à peu près.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit à ce monsieur d'aller se faire cuire un œuf, ou on dit à M. Tartomol de quitter le club? Alors, évidemment, que le monsieur, il fait 1m90, il pèse 130 kilos, M. Tartomol, il fait 1m12 et il pèse 47 kilos, c'est plus facile de le foutre à la porte que l'autre.
Bien sûr.
Et c'est exactement ce qui va se passer avec Chypre.
Alors, on n'en est pas encore à l'exclusion de Chypre, mais en tout cas, on avalise la non-reconnaissance de Chypre, et par conséquent, la situation conflictuelle qui...
Bruno Gouniche, j'ai entendu que la Turquie était en état de guerre, et pas simplement d'exclusion d'un club avec Chypre. Est-ce que cette information est...
Oui, c'est une guerre stabilisée, puisque il y a une trêve, il y a un armistice, mais aucun traité n'a à ce jour résolu définitivement la question, bien sûr.
Mais accessoirement, l'attitude de la Turquie devrait bloquer complètement, enfin ne devrait même pas permettre d'entamer des négociations, puisque on a entendu les représentants turcs, on n'entend que à la télévision, à la radio depuis quelques jours, on a entendu Devedjian qui pour une fois a dit des choses sensées, il est directement concerné. Donc finalement, quand ça les touche, les hommes politiques français ou les politiciens français, il y a un moment où ils finissent par devenir presque intelligents, qu'on a l'impression.
Et humain.
Presque humain. Mais en tout cas, c'est à peu près le seul qu'on ait entendu prêcher contre la Turquie. Il y en a d'autres qui l'ont fait, parce qu'il y a 41 députés UMP qui ont signé contre en disant qu'ils avaient de l'aversion à l'idée de voir la Turquie intégrer l'Europe. Mais en tout cas, on a entendu donc beaucoup de Turcs, beaucoup de représentants de diverses associations, enfin groupements, groupes de pression, lobby turc, qui ont tous dit la même chose. Ça m'a frappé. Ils ont tous expliqué que si on ne faisait pas entrer la Turquie, c'était, si les Français étaient réticents, c'était parce qu'ils pensaient que ça allait provoquer un déferlement d'immigration turcoïde sur l'Europe. Et ces gens-là disaient, détrompez-vous, nous les contenons, mais si vous ne nous faites pas entrer dans l'Europe, nous les lâcherons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette espèce de chantage invraisemblable?
Oui, c'était, bon, c'est un fait que même en dehors de l'adhésion, compte tenu du laxisme de nos autorités depuis des décennies, bon, la Turquie, les Turcs sont déjà massivement en France, en particulier d'ailleurs en Alsace, par exemple.
Ils ont l'accent mosellan, donc.
En Alsace, mais sur, tout le long de la frontière Est, puisque dans l'Ain également, par exemple, il y a, la ville de Yona, je crois, un tiers de sa population qui est turque ou d'origine turque. Bon. Le traité, l'adhésion aggraverait les choses, puisque en vertu de l'adhésion, comme chacun sait, vous devrez savoir, les ressortissants d'un État membre de l'Union ont le droit non seulement de se déplacer, mais de s'établir sur le territoire de tout autre État de l'Union.
Alors pour le coup, ils seront chez eux, chez nous. Hein.
Voilà. Oui.
Et quand on voit ce qui se passe en Espagne en ce moment, enfin dans les enclaves espagnoles du Maroc. On imagine qu'on accepte la Turquie ou pas, si on l'accepte, il rentrera avec des passeports, si on n'accepte pas, il rentrera avec
refuser l'adhésion de la Turquie ne résoudra pas le problème, ne suffira pas à résoudre le problème de l'immigration, pas même le problème de l'immigration turque, c'est évident. Mais accepter l'adhésion, en revanche, l'aggravera considérablement, et surtout donnera aussi à la Turquie, aussi bien au Parlement européen qu'au Conseil, un nombre de voix, par exemple, supérieur à celui de la France, puisque vous savez qu'au Parlement européen, par exemple, la représentation est proportionnelle plus ou moins à la population de chaque État. Or, les Turcs sont aujourd'hui 71 millions. Officiellement. Et seront déjà beaucoup plus, je pense, au moment de l'adhésion.
Surtout qu'il y a au moins 150 millions de turcoïdes.
De turcophones, bien sûr, dans toute l'Asie centrale.
Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a une solution à ça? Une solution raisonnable, envisageable dans l'immédiat.
La solution raisonnable, c'est nous ne sommes pas les ennemis des Turcs, d'ailleurs, ce sont les gouvernements européens qui sont responsables de cette situation. Que les Turcs demandent à entrer, après tout, c'est assez naturel, s'ils pensent y avoir des avantages économiques, politiques ou autres. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie des gouvernements européens qui, par manque de courage, n'osant pas dire au gouvernement turc, vous ne pouvez pas devenir membre d'une union qui est européenne parce que votre pays n'est européen, parce que par une toute petite partie de son territoire, qu'il ne l'est ni ethniquement, ni linguistiquement, ni culturellement, ni religieusement, ni à aucun autre titre. Par conséquent, vous ne pouvez pas être membre d'une Union européenne dont nous souhaitons, nous, qu'elle reste européenne. C'est aussi simple que cela. Au lieu de cela, on a multiplié les manœuvres dilatoires et il est vrai, humiliantes pour le gouvernement, pour le peuple turc, en disant, mais si vous pratiquez telle réforme, si vous abolissez la peine de mort, si vous rétablissez les droits de l'homme, si ceci, si cela, alors vous pourrez devenir membre du club. Moyennant quoi, d'ailleurs, le gouvernement turc s'exécute plus ou moins, et à chaque fois, ses partenaires européens formulent de nouvelles exigences. C'est un comportement tout à fait hypocrite et qui, là, peut effectivement, légitimement, irriter le gouvernement turc et humilier inutilement le peuple turc.
Il y a un autre aspect encore à cette question, c'est l'attitude du gouvernement français, enfin en tout cas de Chirac.
Ça fait plus de 20 ans que Jean-Marie Le Pen a tiré la sonnette d'alarme. Nous étions au Parlement français et lui aussi au Parlement européen et a tiré la sonnette d'alarme devant d'ailleurs l'intention de devenir membre non seulement de la Turquie mais aussi à cette époque il y avait une démarche du Maroc. Bon, tout ça était tout à fait prévu. Ça a été les parlementaires de la majorité n'ont pas l'excuse de l'ignorance. Et on a laissé faire cela. Ce qui est tout à fait anormal, c'est que quand même cette question a été un des thèmes majeurs du référendum. qui a refusé le renforcement des pouvoirs de l'Union précisément parce que la Turquie allait y tenir une place prédominante. Et il est bien évident que dans l'esprit, sinon dans la lettre, ce refus du peuple français devrait s'imposer à ses dirigeants, à commencer par le sommet de l'État, Jacques Chirac lui-même.
Ce qui est frappant, c'est que cette histoire de la Turquie, elle est inscrite avant même la fondation, enfin la pose des fondements de l'Europe, puisque je suis tombé il n'y a pas très très longtemps sur un exemplaire de cette revue qui était avant Spectacle du Monde, qui s'appelait Réalité ou quelque chose comme ça, mais qui était une revue ultra-européenne déjà, où on voyait Schuman à toutes les pages, et tous ces gens-là. Et il y avait un grand papier qui expliquait que l'Europe serait pleinement réalisée le jour où la Turquie serait intégrée à l'Europe. À l'époque, c'était avant même la communauté européenne. Charbon-Acier, c'était avant la communauté de défense, le projet de communauté de défense. Donc, dès le début, les gens qui ont été les opérateurs de cette Europe-là savaient qu'ils allaient intégrer la Turquie. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le référendum, et puis tous les sondages montrent que la plupart des pays européens, à quelques exceptions près, sont hostiles à l'intégration de la Turquie. Et là, on est vraiment dans le cadre d'un déni de démocratie. C'est que dans une union où la majorité des citoyens sont hostiles à un projet d'agrandissement, les dirigeants, la toute petite camarilla mafieuse qui tient les pouvoirs,
continuent comme si de rien n'était.
Absolument. Tout leur travail consiste à chercher un moyen de tourner ou de renverser l'opinion publique ou de contourner l'opinion publique.
Tout à fait.
Et ça, c'est extrêmement grave. Personnellement, je suis pas démocrate, mais je comprends que des véritables démocrates soient choqués par cette.
La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours.
Cause toujours.
Proverbe français.
Et qu'est-ce que vous pensez également de ce qui s'est passé dans les territoires du Maroc? Est-ce que ça risque pas de préfigurer
Dans les territoires
espagnols du Maroc?
Espagnol, oui, c'est oui. Ben il y a les enclaves de Ceuta, de Melilla, et puis il y a de toute façon aussi le détroit de Gibraltar qui est franchi quotidiennement par des gens qui sont prêts à tout pour venir dans ce qu'ils croient être un Eldorado. Comme le gouvernement espagnol socialiste a fait exactement les mêmes bêtises que les autres, et en particulier que le nôtre, il a régularisé massivement, et du fait bien sûr qu'il a régularisé massivement, ça continue d'arriver de plus belle, puisque la régularisation est une espèce de prime à l'illégalité. On se dit que si on a pu prendre pied, et si on peut rester un certain temps, serait-ce dans l'illégalité la plus complète, eh bien cette illégalité finira par disparaître et on sera définitivement admis. Par conséquent, ça continue de plus belle. Il faut savoir qu'on est dans un système de Schengen et que d'espace Schengen, et qu'en vertu de ce système, quand quelqu'un est admis à demeure sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, eh bien, il a la possibilité de se déplacer, voire de s'établir dans les autres pays de l'Union. Par conséquent, là aussi, c'est extrêmement grave, bien sûr. Les seules mesures, les mesures qui devraient être prises sont des mesures telles que celles que recommande le Front National et Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire des mesures qui visent à inverser le courant, mais en s'attaquant enfin de façon sérieuse aux raisons qui font que des gens que les non-européens soient tentés de venir en Europe aussi massivement pour s'y établir. Il faut rétablir la préférence nationale, il faut changer le code de la nationalité, il faut rétablir ce que M. Sarkozy a supprimé sous le prétexte de s'attaquer à la double peine, alors que la gauche n'avait jamais osé le faire, c'est-à-dire l'expulsion des délinquants étrangers multirécidivistes chez nous, qui ne sont maintenant inexpulsables par le vote d'une loi que la majorité actuelle a voté.
Sans compter que le caractère dissuasif d'une peine exécutée au Mali, au Gabon ou au Sahara occidental serait probablement beaucoup plus certain qu'une peine effectuée à Fleury-Mérogis.
Bien sûr.
Parce que on sait quand même que ces prisons-là sont pas des prisons modèles. Hein. Donc si on disait à ces gens-là, écoutez, si vous commettez un délit en France, on va pas vous mettre en prison parce que on va pas en plus vous payer l'hôtel, même si c'est pas un hôtel 4 étoiles. pendant des années parce que vous avez zigouillé de nos compatriotes. Donc on vous fout dans un avion, on vous renvoie chez vous et là vous irez en prison. J'ai un exemple précis au Nigeria où un Français avait porté plainte contre un voleur nigérien qui l'avait estampé largement d'ailleurs, et il avait eu la surprise, un Français qui résidait là-bas, il avait eu la surprise de voir que le magistrat, le monsieur justice comme ils disent là-bas, n'avait condamné le type qu'à 3 mois de prison. Alors il est allé voir le magistrat en disant, écoutez, 3 mois de prison c'est quand même pas beaucoup, eu égard à ce qu'il a fait, tout le magistrat lui a dit, vous n'avez pas la peine de lui donner plus, il sera mort dans 3 mois. Parce que dans cette prison, ne mangent que ceux qui ont de la famille pour leur apporter à manger, ne boivent que ceux qui ont les moyens de s'acheter de l'eau, d'acheter de l'eau aux caïds qui tiennent la prison, et nous, on n'a pas les moyens de payer des gardiens. Donc ils font régner la police eux-mêmes à l'intérieur de la prison, on ouvre la porte, on les jette dedans, on ferme la porte, et puis bonjour. Voilà. Donc effectivement, si on annonce au type qu'il est condamné à 3 mois de prison, qu'il va passer au Nigeria, ça va certainement être plus dissuasif que de savoir qu'il va passer 3 mois à Fleury ou à la Santé, bien sûr. La question fiscale, Bruno Gollnisch, parce que on nous annonce tantôt des réductions, tantôt des augmentations, tantôt on réduit l'imposition et on augmente les taxes. Et...
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de poudre aux yeux dans tout ça. En particulier, il y a par exemple une mesure qui est passée inaperçue dans les projets gouvernementaux. La plupart des commentateurs, c'est que on prétend, ce qui est une part d'un bon sentiment, réduire les tranches ou les taux d'imposition de ce qu'on appelle les tranches de l'impôt sur le revenu. Vous savez que nos revenus sont découpés en tranches et plus ça monte, plus le taux d'imposition est fort.
Bon. Pardon, vous pouvez me couper une seconde? Les revenus découpés en tranches, ça me fait penser à une blague. On retrouve une malle sanglante à la gare du Nord avec une femme découpée en morceaux et le journal disait, cet acte est probablement dû à la malveillance.
Oui, il s'agit probablement d'un acte criminel, oui. Bon. Alors bon, on diminue les taux, ça, mais par exemple, il est prévu qu'on supprime ce qu'on appelle l'abattement de 20%, qui n'était peut-être pas d'ailleurs un très bon système, puisque c'était une faveur qui n'était faite qu'aux salariés, ou qu'aux gens dont les revenus sont déclarés par des tiers, c'est-à-dire tous les salariés, les fonctionnaires, etc., autrement dit, 90% des actifs. Bon, bah, 20% de leurs revenus échappaient complètement à l'impôt, c'est ce qu'on appelle l'abattement de 20%. Bah, là, on va réintégrer ces 20% dans la masse imposable. Voilà, par exemple, une mesure qui est largement passée inaperçue des Français.
Mais alors, ce qu'on se demande, c'est comment les impôts vont baisser avec ce système-là.
Je crois qu'ils vont pas baisser pour tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir des surprises. D'autant plus que le plafonnement d'un certain nombre d'avantages fiscaux qui étaient consentis jusqu'à présent par l'État va avoir des effets qu'on ne soupçonne pas. Parce que ces avantages fiscaux, l'État ne les avait pas consentis simplement comme ça par une espèce de faveur envers les contribuables. C'est parce que dans un certain nombre de domaines, par exemple l'investissement en matière de logement locatif, la restauration des bâtiments historiques, je pense à la loi Malraux, ou d'autres choses, l'embauche d'employés, de salariés à domicile, ben, ça compensait l'absence de politique de l'État dans le domaine du logement, dans le domaine de la restauration des bâtiments historiques, ou dans le domaine de l'emploi. C'est pour ça que ça a été fait. Et évidemment, la disparition la limitation, dont on peut se demander d'ailleurs si elle va pas être rétroactive, de ces avantages va avoir des effets désastreux sur la construction et sur l'emploi, du moins on peut le craindre.
Rétroactif, ça veut dire que
soi-disant ça ne va porter que sur l'avenir, mais en réalité ça va porter évidemment sur les années d'imposition futures. Mais peut-être
pour des investissements
devant des investissements qui ont été réalisés antérieurement. Ça reste à il faut que le gouvernement fasse connaître plus clairement ses intentions dans ce domaine. Je voulais dire une chose, puisque vous m'avez interrogé, Serge, sur ce qui m'avait frappé dans l'actualité. Moi, j'ai une nouvelle, j'ai vu ça encore aux actualités ce matin, ce que je trouve effroyable,
terrifiant, c'est l'augmentation constante des prix du foncier et l'impossibilité dans laquelle sont nos compatriotes soit d'acquérir ce que je trouve une question de dignité élémentaire de la vie humaine, c'est de pouvoir quand même acquérir son logement, hein, ne serait-ce qu'un studio de deux pièces au cours d'une vie de travail ou un appartement ou une maison à la campagne ou quelque chose comme ça. Cette aspiration légitime de nos compatriotes, elle est pratiquement impossible pour un très grand nombre d'entre eux, et maintenant, ce qui est pire, c'est que même ceux qui ont un revenu considéré comme décent, eh bien, sont dans l'incapacité de payer un loyer. J'ai vu que les loyers augmentaient, on se félicitait de ce que les loyers n'augmentaient plus que de 6-7% par trimestre.
Oui, c'est ça. Mais là, il y a quand même une question, en ce qui concerne la question de l'immobilier, enfin du foncier, et notamment dans certaines régions de France, je pense au sud-ouest, ou à l'ouest, à la Bretagne, la Normandie, la Vendée, la Gironde, etc., il y a un vrai problème qui est de nature sociale, sociologique. C'est-à-dire que les gens qui sont propriétaires de leur maison, là-bas, je parle de cas précis, mettent leur maison en vente parce que les Anglais, les Hollandais, les Allemands descendent pour acheter de l'immobilier en France. Donc ils mettent leur maison en vente. Et ils vendent à des Anglais, ils mettent leur maison en vente dans des agences anglaises qui sont installées en France, mais qui font l'essentiel de leur démarchage en Angleterre, par exemple. Ces gens-là, donc, mettent leur maison en vente là-bas. On leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Mais parce que les Anglais payent beaucoup plus que les Français. Et en même temps, ils vous disent, vous comprenez, c'est un scandale, avec les prix de l'immobilier qui augmentent, mes enfants ne peuvent plus acheter de maison. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. On peut pas à la fois dire, je vais essayer de gagner le maximum de fric en vendant ma baraque à des étrangers, et puis ensuite de dire, c'est dégueulasse, mes enfants peuvent pas se loger. Parce que
oui, si ce sont les mêmes, c'est pas forcément toujours les mêmes acteurs.
Ou c'est les cousins, des tantes, des oncles, des parents, des frères et sœurs. Et vous comprenez? Et là, il y a une vraie question. Alors, où on applique un système comme c'était le cas au Tyrol, je sais pas si ça existe toujours, mais c'était très simple. Au Tyrol, un étranger pouvait pas acheter de...
En Suisse aussi?
Bon, voilà.
En Suisse, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quelques années, l'essentiel du patrimoine foncier ne pouvait pas être acquis par des étrangers.
Ou on applique ce système-là, moi je serais assez pour, ou alors on se résout à accepter le jeu normal
du marché.
Mais je
crois qu'il y a quelque chose de particulier en France, c'est qu'on organise de façon artificielle la raréfaction du terrain à bâtir par des règlements d'urbanisme dont le but au départ est louable, de protéger l'environnement, la nature, l'agriculture, etc. L'agriculture, il y a des centaines de milliers d'hectares en jachère, chacun le sait bien. Je le vois dans les villages du Rhône que je connais bien, par exemple, et bien même les jeunes ne peuvent pas s'établir parce que le terrain vaut 1 franc, 2 francs, 3 francs le mètre carré, mais il n'est pas constructible. Et quand il l'est, alors à ce moment-là, tout ce qui est rare et cher, les économistes le savent, eh bien, sa valeur est multipliée par 100. Ce qui est à la fois un système malsain, c'est un système immoral, ça permet à certains de réaliser des profits qui sont abusifs, et cette raréfaction du terrain fait que, pour un lopin de 800 mètres carrés, les gens doivent se saigner aux quatre veines, ils n'ont plus ensuite d'argent pour construire quelque chose de convenable qui respecte l'esprit de l'habitat d'autrefois avec des beaux matériaux. Et ça, je crois que ça aboutit à cette situation qui fait qu'en France, on construit deux fois moins de logements que ce que l'on devrait construire.
Moi, j'ai l'impression que c'est deux propos délibérés et que c'est fait, et ça correspond à une tendance générale qui est en place depuis des années, qui avait été annoncée d'ailleurs par je ne sais plus quel sociologue, qui avait dit il faut nomadiser les populations. Il faut que les gens deviennent nomades. Alors c'est vrai que quelqu'un qui a un travail précaire, parce qu'il a un travail un CDD, CDC, je ne sais pas quoi. Ça,
contrat à durée déterminée.
Déterminé, voilà, CDD. Il a un CDD. Il n'a pas les moyens de s'acheter une maison. Il n'a même pas les moyens de payer un loyer. Bon. Il a des difficultés financières, évidemment, qui sont liées à tout ça. il y a un moment où c'est joli. Ça, vous m'avez pas dit, Jean-Michel, que vous cachiez un petit oiseau dans votre poche. Oui, mais enfin, ne faites, sortez pas votre petit oiseau.
Sortez pas votre petit oiseau comme ça.
En pleine émission. Quand même.
Laissez ça au magistrat.
Exactement.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Ah oui, non, mais...
J'identifie la radio, oui, pas bon. Tous les quarts d'heure quand même, mais toutes les heures. Le moment m'a paru bien choisi. Après oui, ce moment de musique douce.
Arrêtez, je l'ai arrêté.
Non, mais c'est la cage que vous avez ouverte.
Tant que c'est pas la cage aux folles, ça va. La cage aux petits oiseaux, c'est plus mignon.
Oui, c'est quand même mieux.
Donc, on a l'impression que c'est un propos délibéré, c'est-à-dire que quelqu'un, ou une volonté mauvaise, ou une volonté ennemie, ou une volonté agressive...
Il y a eu une volonté technocratique, absolument, sous prétexte de refuser le mitage du territoire, puis il y a la concentration de la population française en région parisienne, où la vie devient de plus en plus infernale, mais où les gens vont parce que c'est là qu'il y a des emplois. Enfin, il y a toute une politique d'aménagement du territoire qui... je pense serait à revoir, oui, certainement.
Est-ce que je peux contredire Bruno Gollnisch? Comme ça, tout le monde verra bien qu'on est des journalistes indépendants et pas des faillots. Le mitage du territoire, vous le mentionnez rapidement, et puis il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas de quoi on parle. Ça veut dire des trous partout. Moi, j'ai un souvenir personnel, vous allez comprendre pourquoi je reviens là-dessus. J'étais du côté d'Opio, là, dans les Alpes-Maritimes, il me semble. Bon, tout le monde connaît Opio, près de Grasse, de Cannes, un paysage merveilleux.
Non, je connais pas personnellement, mais enfin...
On va se promener avec la jeune femme qui m'accompagnait, et on escalade une montagne provençale absolument admirable. Et puis, au moment où on admirait le paysage avec une certaine émotion, voilà Tipa Johnny qui nous hurle dans les oreilles « Abandonnez !» Et on s'est aperçu, en regardant mieux autour de nous, qu'on était arrivé près d'un secteur où il y avait une baraque, un « ça me suffit », à peu près tous les 200 mètres. Alors, je ne voudrais pas poser à l'intellectuel épris qui préfère les arbres aux hommes et aux êtres humains, mais c'est vrai que c'est insupportable là où ça a été réalisé, ce mitage.
Oui et non. Nos ancêtres, je crois, arrivaient à avoir des constructions harmonieuses et n'avaient pas les mêmes problèmes de poste, de PLU que ceux que l'on se pose aujourd'hui. Je ne suis évidemment pas partisan de construire des HLM dans le parc du château de Versailles. Je serais même partisan d'être beaucoup plus exigeant sur la qualité des matériaux, sur le respect des styles de nos différentes provinces. Il est certain qu'on ne construit pas en Provence comme on construit en Touraine. C'est pas les mêmes matériaux, c'est pas le même style. Mais je trouve que l'on pourrait construire bien davantage et essayer d'ouvrir la possibilité de devenir propriétaire à un plus grand nombre de Français. Alors on me dira d'ailleurs la maison individuelle, c'est déjà un luxe de nantis. Oui, mais si celui qui est dans un 3 pièces a la possibilité d'acquérir une maison individuelle, eh bien le 3 pièces deviendra disponible pour quelqu'un qui jusqu'à présent était dans un studio, et le studio, eh bien il sera disponible pour celui pour l'étudiant qui cherche désespérément un logement, ou pour la personne seule qui n'arrive pas à trouver quelque chose en rapport avec ses besoins. Je pense qu'on doit construire, d'autant plus que dans le secteur de la construction, quand même, c'est pas on est à peu près sûr de faire travailler en grande partie tout de même des artisans, des entreprises françaises. Si on distribue des revenus comme ça, ben on peut penser que ils vont être dépensés en produits électroniques, et que ça va faire marcher les fabriques de magnétophones, de transistors, de télévisions en Extrême-Orient ou ailleurs, tandis que dans la construction, quand même, on voit pas encore trop de
à part
Chinois,
le plombier polonais.
À part le plombier polonais, oui, on voit pas trop de d'exportation dans ce domaine, puisqu'il faut par définition être sur place, quoi.
Alors, quelques messages. On va passer aux questions tout de suite, mais là, j'ai des messages plus que des questions. La taxe foncière à Aubergenville, dans le 78, à Seine-et-Oise, c'est ça, a augmenté de 181,25%.
Ouais.
C'est terrifiant.
Ben là, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Michel Dubois, qui est un de nos dirigeants, membre de notre bureau politique, et qui est conseiller régional au conseil régional d'Île-de-France.
dans le groupe que préside Marine Le Pen et qui est élue du Val d'Oise. Eh bien, je crois pouvoir dire, je parle sous son contrôle, puisque moi je suis conseiller régional de la région Rhône-Alpes, que l'augmentation délirante des dépenses des collectivités locales est la cause de cette augmentation des taxes foncières et taxes d'habitation, qui deviennent un troisième impôt sur le revenu.
Absolument, et quand le gouvernement vient dire que les impôts baissent, c'est absolument faux, parce que quand on additionne les impôts sur le revenu plus les impôts locaux. Autres locaux, etc., et notamment régionaux, parce que les présidents socialistes ont tout de même fait une augmentation entre 20 et 80% à peu près, je n'ai pas le chiffre exact.
21% en moyenne.
21% en moyenne, mais disons qu'il y a des régions qui ont fait quand même de fortes augmentations, et bien le contribuable, en fin d'année, quand il va additionner impôt plus impôt plus impôt, et bien, il va s'apercevoir que là, il va y avoir une augmentation, non pas une diminution. Hein, et effectivement, quand on regarde l'augmentation, comme il vient de le signaler à juste titre notre délégué général Bruno Kollnisch, effectivement, les impôts locaux augmentent d'une façon anormale. C'est-à-dire que là, il y a tout de même quelque chose qui ne tourne pas rond, et dans beaucoup de villes, les élus en place devraient faire de la bonne gestion alors qu'ils s'amusent à dépenser. Alors pourquoi dépensent-ils? Ça, il y a beaucoup de questions à se poser, parce que plus on dépense, plus il y a de possibilités. Etc., etc. Mais je ne m'étendrai pas, c'est peut-être pas le...
Si on était dans l'Empire ottoman, on dirait que c'est parce qu'il touche des pots de vin, mais en France, ça n'existe pas. Pas non plus. Faut pas comment, d'ailleurs,
il n'y a pas des Pasqua partout, quand même. Hein.
Ben, je le regrette. Je le regrette.
Et sur Charles Pasqua, sur Charles Pasqua, vous avez évoqué tout à l'heure, je voudrais dire quand même, ce qui me choque, moi, dans cette affaire, c'est que, comme d'ailleurs dans l'affaire du préfet Marchiani, que j'ai connu au Parlement européen, c'est que ces hommes sont poursuivis comme par hasard au moment où leur influence politique régresse. Voilà. Tant qu'ils sont puissants, ils ne sont pas poursuivis. Voilà. C'est comme vous l'avez montré tout à l'heure.
C'est la loi dite d'Audiard. Quand les hommes de 120 kilos disent des choses, les hommes de 60 kilos les écoutent. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, quand Pasqua pouvait terroriser le moins à l'arrière-ban, on lui foutait la paix, et il faisait ce qu'il voulait. Il pouvait afficher sans crainte d'être poursuivi pour de vin, un magnifique pistolet mitrailleur Uzi en or qui lui avait été offert par les dirigeants du Mossad, ce qui était gentil quand même. Alors il montrait ça dans son bureau de ministre de l'Intérieur avec beaucoup de fierté. Maintenant, on l'accuserait d'avoir de s'être fait graisser la patte à coups de fusil, de pistolet mitrailleur en or par les Israéliens, ce qui me paraît totalement déplacé. Cette accusation, je veux dire, pas le fait de se faire graisser la patte.
C'est ainsi, Serge, que le tapis est traîné dans la boue hier ou avant-hier dans Libération, qu'il a défendu bec et ongles quand c'était un instrument du gouvernement socialiste, sous la signature de mon ancien élève Pierre Marcel, qui a si mal tourné. Il est littéralement traîné dans la boue, alors que pendant des années ils l'ont défendu bec et ongles.
Vous attendez quoi, qu'on pleure, qu'on fasse un comité de défense?
Oui, il faut pleurer, parce qu'avec ses 135 millions, ça signifie qu'il est devenu, comme vous l'expliquez, faible, assez faible pour être mordu par ses rats.
Ah. Ouais, je crois que les principaux responsables sont quand même, là encore, les dirigeants du Crédit Lyonnais.
Oui, c'est incroyable.
Qui n'ont jamais été inquiétés. Pratiquement pas.
Voilà. Pratiquement pas. Et compte tenu des sommes énormes.
Ne mords pas la main qui te nourrit, dit le proverbe.
Hein, les milliards des contribuables français qui ont été.
Les 155 milliards.
C'était énorme.
De monsieur Abrère.
Bon, Abrère, bah.
Alors, les archives qu'on brûlait, en plus.
Comme par hasard, oui.
Je souhaiterais que vous rappeliez. Oh, mais ça, c'est un accident. Enfin, vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Moi, je suis désolé de.
Heureusement que vous êtes là pour remettre d'aplomb.
Parce que toutes vos allusions, comme si on pouvait imaginer des choses pareilles. Enfin, non. Mettre le feu à des archives.
Moi, je suis allé voir un dimanche matin, c'était très très beau. C'était grandiose. C'est beau, ouais. Et puis, ça s'est arrêté juste à la partie historique du bâtiment.
Ouais. Coup de chance. Je souhaiterais que vous rappeliez que lors de la signature ultime du traité sur la Constitution qui a fait l'objet du référendum, il y a eu un clash à propos de la Turquie, nous dit une auditrice. Bush a téléphoné aux dirigeants franco-allemands pour qu'ils cèdent et admettent la signature de la Turquie, bien qu'elle n'ait pas accédé aux demandes qui lui étaient faites.
C'est très juste. Il y a eu... Alors, on ne sait pas si c'est Bush lui-même ou si c'est le secrétaire d'État américain. J'ai posé la question...
question écrite au Conseil. Le Conseil, c'est l'ensemble des gouvernements des États membres. Et comme parlementaire européen, j'ai la possibilité de le faire. Je posais cette question écrite. J'ai eu une réponse parfaitement dilatoire. Et donc, je l'ai reposée encore. Je demande si qu'on veuille bien me dire s'il y a eu ou non des interventions de personnalités politiques américaines. En fait, on sait très bien qu'il y en a eu.
Mais ça a recommencé là récemment à propos de l'attitude de l'Autriche, de la question autrichienne, croate et turque, puisque on nous dit que Madame Riollet est intervenue plusieurs fois, a téléphoné plusieurs fois pour que les négociations commandent. Madame Riollet, c'est Condoleezza Rice. Comment se fait-il que des promesses aient été soi-disant faites à la Turquie d'entrer dans l'Union alors que lors de la rédaction du traité de Nice, la Turquie n'était pas dans la liste des 25 États ?
La Turquie n'était pas dans la liste des 25 États, mais il n'empêche que le processus de négociation était en cours, qu'il y avait déjà eu d'ailleurs des rapports qui avaient été faits à ce sujet-là. Et des discussions diplomatiques, tout ça était absolument de notoriété publique. Et le traité de Nice avait prévu l'adhésion des 10 nouveaux États de l'Europe centrale et orientale, mais il n'a jamais été dit qu'on s'arrêterait là.
Et alors un auditeur nous fait fort justement remarquer qu'il existe en Turquie une loi qui permet aux turcophones d'accéder de
façon automatique turque,
à la citoyenneté turque. Alors il dit qu'il y a 70 millions de Turcs et environ 130 millions de turcophones qui se feront un plaisir quand la Turquie aura intégré l'Union de demander la citoyenneté et nous aurons 200 millions de Turcs. C'est bon, on se plaint pas qu'il y en ait beaucoup. Je voudrais savoir s'il est vrai que les Anglais, les Allemands, les Hollandais qui s'installent en France bénéficient de la CMU. Probablement pas dans le cas de ceux qui achètent des maisons, parce que s'ils sont assez riches pour être propriétaires, ils n'ont pas, pas accès à la CMU, je pense pas.
Oui, je pense s'ils sont dans la situation de fortune, si je veux dire, ou d'infortune qui fait qu'ils relèvent de la CMU. Oui, je pense, oui.
Le foncier est de plus en plus cher, car la décentralisation a multiplié les intervenants. Oui, ça c'est vrai.
État,
collectivité locale, communauté d'agglomération, les recours abusifs des tiers, et il y a aussi les problèmes. Alors ça doit être quelqu'un qui est directement concerné, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Les problèmes liés au sous-sol, on préfère s'occuper d'archéologie plutôt que de loger les gens. C'est vrai que la question de la propriété du sous-sol, c'est une question dont on n'a pas fini de discuter en France.
Oui, là c'est les fouilles archéologiques, oui, qui bloquent quelquefois un certain nombre de chantiers. Bon, il ne faut pas que ce soit abusif, bien sûr.
Il faut quand même sauvegarder le patrimoine. Voilà, moi, pour ce qui me concerne, Bruno Gollnisch, est-ce que vous vouliez évoquer d'autres questions d'actualité?
Oui, j'ai un certain nombre de messages.
Oui, on va les lire tout de suite.
Je voulais évoquer, mais peut-être y viendra-t-on, que le Front National tient sa fête des Bleus, Blancs, Rouges ce samedi et ce dimanche, fête dont Jean-Michel Dubois est l'un des principaux organisateurs.
J'ai une question personnelle à poser à Jean-Michel Dubois. Le Libre Journal a un stand, or un ami m'a téléphoné en me disant j'ai la liste des stands, j'ai le plan, vous n'y êtes pas. Alors est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas?
Non, c'est-à-dire que le plan sur, je crois, le journal du Front National qui a été édité il y a un certain nombre de semaines n'y était pas, mais c'était naturellement un plan provisoire. Et compte tenu que tout n'avait pas été
répertorié
et que les accords n'avaient pas été passés, etc., un certain nombre d'exposants n'y étaient pas stipulés. Donc là, ce n'est pas une erreur, c'est le fait que le premier document était un document provisoire. Voilà.
Donc je peux annoncer que
absolument, le livre.
Ça tombe bien, Serge, parce que on l'a annoncé déjà.
Oui. C'est annoncé. C'est absolument.
Bon, on ne sera pas expulsé à coup de pompe.
Bien au contraire, vous serez très bien accueilli. C'est très bien accueilli.
Non, mais je préfère m'enseigner.
Non. Mais là,
il faut prévenir tout le monde quand même.
Non, mais je vous donne cette garantie.
Comment ça se passe au Bourget, dans le...
Ça se passe dans le hall 2B, donc oui. C'est un hall de 23 000 mètres carrés. C'est un hall de 23 000 mètres carrés où, naturellement, il va y avoir toutes les fédérations qui vont être présentes, il y a une centaine de fédérations donc qui vont être présentes, plus un certain nombre d'autres exposants et notamment soit certains libraires, soit certains journaux, et dont notamment le vôtre. Et il y aura notamment pour la famille, donc parce que nous au Front National on tient compte de ce phénomène familial, il y aura un espace enfant, hein, donc vous étiez gêné en pensant que vous ne pourriez pas faire garder votre enfant, vous l'amenez, au contraire, il sera très bien accueilli.
Il y aura des jeux,
films pour enfants, etc. donc des animateurs, et tout était parfait à ce niveau-là.
Je vais dire à mes deux fils qui ont respectivement 35 et 31 ans, qu'ils peuvent venir.
Bah, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, on pourra peut-être les mettre en contact avec les hôtesses. Hein. Bon, c'est autre chose.
Ils sont mariés.
Autre chose. Mais ils auront un spectacle russe, d'ailleurs. Hein.
Alors, il y a justement, donc je venais parce que le côté familial est un point fort quand même au niveau du Front National. Il y aura également naturellement tous les stands et toutes les régions qui seront représentées, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau de la gastronomie. Il y aura différents spectacles, et notamment un spectacle russe où il y a 14 Russes qui viennent faire le spectacle du samedi soir. Le dimanche à 14h30, il y aura également une exhibition de patineurs.
Dimanche 9 octobre, n'est-ce pas?
Dimanche, oui.
On a omis
ce samedi 8 et ce dimanche 9.
Je le préciser, c'est donc le samedi 8 et le dimanche 9 octobre, donc le week-end prochain. Il y aura donc une exhibition de patineurs de la Fédération française de patinage, dont certains ont été sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Donc, vous voyez, sont quand même des professionnels qui vont venir. Il y aura naturellement le samedi soir une bonne soirée où chacun pourra danser jusqu'à une heure raisonnable, mais pas trop tard tout de même, parce que le lendemain il faudra revenir à la fête
et à la messe à 10h.
Justement, j'y arrivais. Et donc le lendemain à 10h, il y a la grande messe comme chaque année, où nous pouvons faire naturellement les fêtes des bébères, parce que depuis 2002, malheureusement, les socialistes étant tellement démocrates, et les verts encore plus, et les écolos encore plus, il est bien évident que nous n'avons pas pu avoir la possibilité de faire nos bébères, ce que nous regrettons, parce qu'il est bien évident que nos adhérents attendaient ça depuis des années et des années, et nous avons pu là pour 2005 trouver un terrain au Bourget. Alors je tiens à préciser tout de même, avant de revenir au programme, que ceux qui veulent se déplacer peuvent, s'ils n'ont pas de véhicule, parce que ceux qui ont des véhicules pourront naturellement se garer, il y a un parking sur place. Et ceux qui n'ont pas de véhicule peuvent prendre les transports en commun, soit avec le RER, je crois que c'est la ligne B, il faut s'arrêter au Bourget, soit par le métro. Il y aura des navettes gratuites, hein, qui pourront les emmener de la station jusqu'au parc d'exposition, jusqu'à l'entrée du parc même. Hein, vous voyez, donc on a essayé de faciliter au maximum l'accès à tous ceux qui aimeraient venir à notre fête, et que nous souhaitons naturellement les plus nombreux possibles. Et bien évident, et je le rappelle que il y aura cette grande messe donc à 10h le dimanche 9, et ensuite chacun pourra aller visiter les différents stands l'après-midi, comme le matin et comme le samedi après-midi. Il y aura différents forums animés par la délégation générale, par les services de Bruno Gollnisch, de Martial Bild et autres. Je n'ai pas la liste avec moi, mais disons qu'il y aura véritablement des forums très très intéressants sur un certain nombre de sujets pointus qui intéressent tous les Français. Et après le tirage au sort, parce on a fait une petite loterie, vous savez, il faut de temps en temps une belle 107 toute neuve qui sera exposée sur place, et il y aura ce tirage à 16h avec un huissier pour bien montrer quand même qu'il n'y a pas de triche chez nous, c'est tête haute et main propre, donc il faut quand même faire les choses dans les règles. Et je demanderai même à certaines personnes du public de monter pour bien voir. Effectivement, on a loué une machine spéciale de loto, vous savez, où il y a des boules à l'intérieur, et comme ça on pourra tirer les numéros. Et donc nous allons avoir le vainqueur de ce tirage du tirage de cette loterie. Et ensuite cette fête se terminera par le grand meeting de Jean-Marie Le Pen. Voilà, je pense que c'est un week-end
à 16h,
chargé à 16h30.
Et je rêve à l'idée que Le Pen va gagner la voiture. Personne ne voudra croire que c'est par hasard.
Eh bien, ce le serait, car
c'est pour ça que
toutes les garanties sont prises.
Un jour, on avait offert une télévision pour une loterie du Front National. J'étais tout fier, j'arrive avec ma télé, je la donne. On tire au sort, on prend des billets, bien entendu, on tire au sort et on gagne la télé. Impossible de s'en débarrasser de cette saloperie. Non,
c'est bien pour ça que moi-même et d'autres, et les dirigeants du Front, je leur ai demandé de ne pas trop acheter de billets dans la mesure où il y a tout de même ce risque de gagner. Hein, parce que si,
il faut qu'ils donnent l'exemple.
Par contre, ils sont corrects, évidemment.
Voilà. Je pense que c'est Giscard d'Estaing.
Je pense, oui.
Vous voulez que je vous la raconte en 20 secondes? Oui. Vous savez que Mme Giscard d'Estaing préside une association pour l'enfance, comme le font toutes les dames d'œuvre. Et il y a 3 ou 4 ans maintenant, comme chaque année, dans la galerie des batailles à Versailles, il y avait un très grand dîner à 7000 ou 8000 balles par tête de pipe. Et alors, il y a toujours une reine en exil, trois duchesses qui viennent accompagner Mme Giscard d'Estaing. Et il y avait cette année-là son mari. Et comme chaque année, un grand bijoutier sollicité offre un bijou. Et en l'occurrence, là, c'est une grande marque, je ne veux pas dire le nom, qui avait offert une très belle montre de plusieurs millions d'anciens francs. Évidemment, alors les billets étaient assez chers et tout le monde achète des billets de loterie. Et puis, on tire la tombola et c'est M. Giscard d'Estaing qui gagne la montre. Et tout le monde se dit, moi le premier, il va la remettre en loterie. Et immédiatement, il demande un micro, il dit, mais c'est très bien, c'est bientôt l'anniversaire de mariage avec un émoi, je serais content de pouvoir lui offrir cette montre.
Élégant toujours.
Alors Serge, si vous me permettez une petite seconde encore, j'aimerais spécifier, parce que c'est important, parce qu'on est tout de même au début octobre, c'est un hall couvert.
Hein,
c'est couvert, donc la prévision au niveau de la météo donne en principe un beau temps, disons un temps entre 18 et 20 degrés, peut-être un peu de pluie le dimanche, mais c'est tout, mais de toute façon c'est couvert.
C'est couvert. Une journée magnifique.
Une journée magnifique de toute façon, et c'est couvert, donc de ce côté-là, il n'y a aucun risque, donc vous pouvez venir le plus nombreux possible, et c'est une fête nationale qui est d'une grande importance chez nous, et plus nous serons nombreux, naturellement, plus nous nous retrouvons ensemble et plus nous essaierons d'envisager l'avenir dans des conditions un peu meilleures que celles que les dirigeants actuels nous proposent.
Nous parlons des BBR 2005, fête de la fierté française, des 8 et 9 octobre au parc des expositions de Paris-Le Bourget.
Et nous donnons la parole aux auditeurs maintenant pour leurs questions. Il faut le passer maintenant. On peut le passer en deuxième partie. Oui, je parle du Bobino avec Franck. Vous voyez qu'on vous raconte tout. Parce que moi, le langage parlé, j'ai tout oublié. C'est-à-dire que... Voilà. Donc...
Alors, une auditrice vous demande... Je vous assure qu'elle est très choquée que les BBR se terminent par une soirée avec des chanteurs ou danseurs russes.
Ah, écoutez.
On va peut-être lui signaler.
Non, nous sommes. Ça ne se termine pas.
C'est le samedi soir.
Il y a des patineurs français et il y a rien de ce qui est humain ne nous est étranger et tout à fait naturel que nous intéressions aussi aux cultures d'autres pays.
Même russes.
Mais il y aura des artistes français, il y aura le chanteur pied noir, les patineurs français, etc.
Bon. Non, de ce côté-là, c'est juste.
Mais il y aura
samedi.
Un spectacle exotique. Maintenant, ceux qui n'aiment pas, ne sont pas obligés d'y aller voir parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'attractions. Voilà.
Alors, des navettes à partir du métro. Oui, mais quel métro?
Eh bien, le RER, c'est le métro Le Bourget. Et pour ce qui concerne le métro, c'est la station du 19 mai.
45,
absolument.
Toujours 45.
Ah oui, ben ça c'est toujours, oui, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Donc c'est le 19 mai 45, c'est la station de métro. Hein. Et là, il y a et je dis bien navette gratuite.
Alors donc la navette est là, oui.
Voilà, la navette est là.
Y aura-t-il un stand dédié au rock identitaire français?
Non, c'est pas prévu, rien de prévu.
Je suis ravie de retrouver...
Donc à venir me voir, je leur chanterai quelque
chose.
Voilà,
justement, je suis ravie de retrouver Serge de Beketch ce soir, après 3 ans d'exil, dans une région où je ne pouvais pas capter Radio.
On peut préciser que M. de Beketch est très rock'n'roll, comme ça tout le monde sera content.
Alors, question à M. Bolnisch. Hier, dans un journal télévisé, j'ai entendu, la Turquie entrera en Europe dans 15 ans. Une minute après, c'était 10 ans. Cet après-midi, Le Monde titre « L'Europe s'élargit ». À qui peut-on faire confiance?
À personne. Surtout ne faites confiance à personne.
Dans ce domaine, il est bien évident qu'on a fixé un délai de négociation important. C'est pour ne pas affoler les populations, pour les endormir. Ça risque de se passer beaucoup plus vite si l'on n'y met pas le holà, c'est évident.
Alors, que pensez-vous de la position de l'Autriche quant à l'entrée de la Turquie dans l'Europe?
J'ai trouvé que c'était assez courageux. En tout cas, ça a eu raison de l'obstacle grotesque que l'on mettait à l'ouverture de l'adhésion avec la Croatie. Parce qu'autant je considère que la Turquie n'est pas un pays européen, autant la Croatie est un pays européen. Aussi bien les influences qui vénitiennes sur toute la côte dalmate, austro-hongroise, à Zagreb, etc. C'est un superbe pays européen, petit pays très sympathique, et on prenait prétexte de ce que le général, un général croate, Ante Gotovina, n'avait pas été livré à la Cour internationale de La Haye pour bloquer les négociations d'adhésion avec la Croatie. Alors, le gouvernement croate disait, écoutez, nous ne savons pas où est passé ce général, parce que, voilà. Alors on disait, tant que vous n'aurez pas retrouvé ce général, vous n'aurez pas mis la main dessus, vous n'aurez pas livré, il n'y aura pas de négociation d'adhésion. On voit par là d'ailleurs un des effets pervers de cette prétendue justice internationale, aussi bien du côté serbe que du côté croate, c'est qu'elle empêche durablement toute réconciliation entre les peuples.
Voilà. En plus, c'est un outil de chantage.
C'est un outil de chantage politique. L'obstination de l'Autriche a eu au moins, elle n'a pas empêché l'ouverture des négociations avec la Turquie, mais l'Autriche a tenu ferme sur le fait qu'elle mettrait son veto. C'est un petit pays, l'Autriche, hein, 10 millions d'habitants. Ben, on voit quand même que le veto d'un petit pays, ça peut bloquer un processus. Donc c'est le courage politique qui manque. C'est pas les facultés d'intervention. L'Autriche a dit qu'elle mettrait son veto à l'ouverture des négociations avec la Turquie si on refusait de les ouvrir avec la Croatie. Elle a au moins obtenu cela. À quelque chose, malheur est bon.
Avec la Turquie, nos gouvernements font finalement la même chose qu'avec la dette. Ils repoussent le problème à plus tard, c'est-à-dire aux générations futures.
Tout à fait.
Et à propos des libérations anticipées, merci de rappeler le sort de Michel Lajoie, qui, lui, est toujours enfermé.
Oui, absolument, alors qu'il n'a tué personne.
Ah voilà, il n'a tué personne.
Comment se fait-il que le Front National n'ait pas eu l'initiative d'organiser une manifestation contre l'entrée de la Turquie? C'est à lui de le faire avec ses 15% de vote.
Ça n'est pas exclu, mais ça n'est pas très facile à trouver à Paris. En tout cas, notre président Jean-Marie Le Pen l'a conçu ainsi, parce que les principaux responsables, ce n'est pas, encore une fois, la Turquie, ce sont les gouvernements européens. Où manifester pour symboliser cela? C'est pas... Il y a un bureau, une antenne de la Commission européenne, boulevard Saint-Germain, Jean-Marie Le Pen, il y a déjà presque un an, il a fait une conférence de presse tout à fait solennelle, extrêmement détaillée sur cette question de l'adhésion de la Turquie, avant que les autres personnalités politiques françaises ne s'y impliquent un peu. Alors, voilà, mais nous n'excluons pas la manifestation, bien que, hélas, la culture de la manifestation ne soit pas tellement inhérente à notre famille d'esprit. On le voit, hélas, le 1er mai, ou quand même le 1er mai de la droite nationale fait moins recette que le 1er mai de gauche. Je le déplore beaucoup. Nous allons voir s'il y a un sursaut de notre peuple, et notamment à l'occasion de cette fête des Bleus Blancs Rouges qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années à cause de la persécution que nous avons subie. Et du fait que la mairie de Paris, de façon tout à fait scandaleuse, nous a privés du terrain dont nous disposions à la pelouse de Reuilly. On va voir si nous sommes 200 000 comme il serait tout à fait légitime que nous le soyons au Bourget, on pourra envisager des manifestations.
Oui, mais pour l'entrée de la Turquie, je crois qu'au niveau du référendum, on s'est quand même bien fait l'entendre. On a quand même été les chefs de file, en quelque sorte, du non. Et je crois que là-dessus, les choses ont été claires et nettes.
C'est sûr, je parlais simplement de l'hypothèse d'une manifestation.
Au sujet... sujet de la Turquie, il faut dire aussi qu'il y a une forte proportion de la population turque qui ne veut pas du tout intégrer l'Union européenne. On en parle peu.
C'est vrai. Notamment le parti Refa qui a été interdit, ce que je trouve abusif. C'est un parti musulman. Moi, je ne suis pas choqué qu'un pays musulman à 98% comme la Turquie s'inspire de ses traditions spirituelles pour essayer d'y trouver une réponse à ces problèmes contemporains. Ce qui me choque, c'est qu'on nous l'impose à nous, n'est-ce pas ?
Alors, avez-vous une idée sur ce que pense la Grèce de l'entrée de la Turquie ?
Je crois que les Grecs en pensent beaucoup de mal et que leurs gouvernements sont totalement paralysés.
J'ai entendu lundi soir, à 8h45 sur France Inter, M. Bernard Kouchner déclarer « De toute façon, il est clair que l'Europe fédérale est une préfiguration d'un gouvernement mondial, d'une gouvernance mondiale, pardon, et qu'il n'y avait pas de solution politique alternative. »
C'est ça a le mérite de la clarté. Le choix est effectivement là. Il est entre le maintien des indépendances et des identités particulières, qui s'inscrivent notamment dans le cadre national, ou la prétendue gouvernance mondiale, le nivellement de ces identités, qu'il s'agisse des identités spirituelles, qu'il s'agisse des identités ethniques, culturelles, économiques ou autres. Et nous pensons que ces identités sont constitutives de nos libertés. Mais je n'en veux pas à M. Kouchner d'une certaine façon, parce qu'il a au moins le mérite, lui, d'annoncer clairement la couleur.
Une auditrice, sommes-nous vraiment au bord de la banqueroute et de la guerre civile, comme beaucoup de gens commencent à l'affirmer ?
Oui, on est au bord, mais on peut essayer de se rattraper aux branches.
En ce qui concerne la banqueroute, on est au bord, mais du mauvais côté.
Oui, c'est
1 200 milliards d'euros de dettes publiques, ça commence à faire beaucoup.
C'est vrai.
Un auditeur qui apprécie l'émission.
Si on me demande de rembourser ma part, je peux pas, hein, je le dis tout de suite. Hein, c'est...
La délinquance de la France s'arrêtera lorsque les Français prendront les armes.
La délinquance en France, peut-être. La déliquescence de la France, ou la décadence de la France.
Pardon, excusez-moi.
Oui, lorsque les Français prendront les armes. Malheureusement, ce peuple qui a extraordinairement résisté à des invasions étrangères, notamment de son voisin allemand, par exemple, paraît aujourd'hui dans ses élites vouloir être ouvert à toutes les invasions.
Un auditeur
terrifiant, mais c'est ainsi. Mais prendre les armes, vous savez, ça n'est pas rien de prendre les armes. Nous sommes attachés à la paix civile autant que faire se peut. Moi, j'ai remarqué que ceux qui me conseillaient de prendre les armes ou de poser des bombes se gardaient bien de se porter volontaire pour le faire.
Armons-nous et partez.
Un auditeur vous a remarqué que la France qui a relevé la tête sous la botte, la courbe sous la babouche.
Oui, c'est vrai.
Et un auditeur nous dit, mais Bruno Gollnisch serait un candidat excellent aux élections présidentielles.
Je soutiens sans réserve la candidature de Jean-Marie Le Pen. Je ne suis pas pressé de voir ce calife s'approcher de moi.
Un auditeur nous dit, au Québec, on commence à voir des femmes voilées. Alors je vais déménager dans la ville de Saint-Bruno. J'espère que cela me portera
6 octobre. La fête est le 6 octobre. Donc c'est très bientôt. La situation du Québec est dramatique et très instructive, puisque c'est le Québec qui avait résisté en particulier par ses familles si nombreuses, par ses naissances, qui avaient résisté à la destruction de son identité francophone, catholique, etc., paraît y avoir renoncé. Il est frappé de plein fouet par la décadence, et ça a eu des incidences directes. En particulier, c'est l'immigration, par exemple, qui a fait échouer le référendum sur l'indépendance.
Nous saluons nos nombreux auditeurs québécois.
Oui, on a beaucoup.
Vous avez parlé du club de l'horloge. Il était fréquenté autrefois par les conseillers personnels de Mitterrand et de Giscard dans les années 80. Stoleru et Attali.
Bon, bon, c'est épisodique, ça.
Oui, non, mais le club de l'horloge a été fréquenté par des gens très divers, des gens de qualité,
par une élite,
des gens avec lesquels, personnellement, je suis d'accord, des gens avec lesquels j'ai été en totale opposition. Mais c'est un peu la nature d'un club.
Il y avait de tout à la classe.
De ce style, de réunir des gens divers pour un travail de réflexion qui ne les engage pas.
Une petite anecdote. Le mois dernier, j'étais à un mariage dans les Landes. Les tables portaient les noms des auteurs préférés des mariés. Et je me suis retrouvée avec bonheur à la table Serge de Beccacci.
Oh. Ah. Moi, j'aurais préféré y être aussi plutôt que mon nom, simplement.
Parlons des noms. À l'origine, la résilience est un terme de métallurgie définissant la qualité de matériaux de retrouver leur état initial après une pression ou un choc. Est normal d'avoir cette qualité quand on sort de tôle.
Oh, très drôle. Merci Bruno Gollnisch, merci Jean-Michel Dubois. Alors, on se voit dimanche, samedi et dimanche,
samedi,
au Bourget.
Samedi, absolument.
Et où nous ferons, c'est les quantièmes, mais
le Front National.
76e, non?
C'est une bonne question.
C'est une ou 22e?
C'est une vieille aventure.
Qui nous laisse
sans réponse. Qui a démarré à la vallée des Ponts-Rouges.
J'avais un doute, oui, absolument, dans la vallée de Chevreuse.
Et... Merci à tous les deux. Et
merci à vous de nous avoir reçus.
À samedi et à
merci
dimanche.
Merci de votre invitation. À samedi et à dimanche.
Voilà, nous entamons la deuxième côte de ce petit tour. Pourquoi vous me regardez comme ça, monsieur Maliarakis, avec un air...
Par amitié.
C'est gentil. Essayez de me regarder alors avec méchanceté, parce qu'avec amitié, c'est inquiétant un peu.
Serge, il y a sûrement des auditeurs, comme vous l'avez suggéré, qui disent « Ah, ils s'invitent entre eux, comme dans les gros médias, les pourris ». Mais je viens de me rappeler que votre dernière invitation, Jean-Gilles, avait bien 2 ans.
On se voit très rarement.
J'espère que Serge me fera l'honneur de venir parler de son bouquin de ces jours. On n'a pas encore pris date.
Alors, mon bouquin, oui, le dictionnaire de la colère.
Mais...
En vente, quatre places. Ben alors, qu'est-ce que vous faites
Le dictionnaire de la colère de Serge de Beccacci, 25 € franco. C'est bien ça, Serge, n'est-ce pas? Au lieu de faire des gestes à notre charmante téléphoniste.
C'est Mylène qui me fait signe que le docteur Muham est arrivé.
Ou 25 € plus.
Non, c'est 30 € franco.
30 € franco, 4 places françaises,
comme vous voulez,
75 €10, Paris.
C'est très bien, voilà, tout ce qui est cette chose est dite.
Ce qui n'est pas dit, par contre.
Ah oui, c'est la sortie du numéro 359 du Libre Journal. Voilà,
aujourd'hui même est sorti des presses le numéro 359 du Libre Journal. Et... Vous allez avoir une transition toute trouvée, puisque en couverture, et on a la photographie du général Denikine, donc, qui rentre à Moscou en passant par Paris, n'en déplaise à cette dame qui est choquée par la musique russe, et que c'est traité brillamment, je suis obligé de le dire, par Jean-Gilles Maliarakis en page 9. On explique aussi comment les incendies se déclenchent dans certains immeubles et dans pas d'autres, et qui fait quitte
qui prodeste.
Merci les juristes. À qui profite le crime? Comment la mafia a planétarisé l'industrie du porno? Deux regards sur Richard Wagner, le complot maçonnique naturellement, sans lequel un exemplaire, un numéro du Libre Journal ne serait pas tout à fait du Libre Journal.
Et la vengeance talmudique contre Papon.
La vengeance talmudique
pour que ce soit complet.
Également pour que le numéro soit complet.
Si on veut être lu dans les loges.
Mais c'est pas si. Est-ce qu'il y a des choses contre les homosexuels dans ce numéro?
Il y a toujours.
Les allusions, c'est interdit. C'est-à-dire que cette fois, on n'a pas d'article entier, donc on s'est contenté de.
Goffman prend les allusions par derrière, voilà. C'est très caché.
Et enfin, du nouveau sur le Saint-Suaire par le meilleur spécialiste autorisé, du moins parmi ceux qui y croient, Daniel Raffard de Brienne.
C'est une agression.
Voilà, alors vous allez riposter brutalement quand j'aurai rappelé que si on veut ce numéro 359 en spécimen, on envoie 5 € ou un carnet de timbres et on se dépêche car Daniel de Beccacci n'a plus de timbres et elle n'est pas très contente. Si on a enfin compris qu'il faut s'abonner pour 1 an, on envoie 110 € à l'ordre de SDB
4 place France Litz, 75010 Paris.
Bravo Marc.
Il y a une page 22, hein, t'en as pas parlé,
Charpine,
mais elle existe.
Charpine et Brancato de la pub.
Voilà.
Merci monsieur. Oui, je dois reprendre quand même une chose. Non, non, c'est pas vrai du tout ce que vous avez dit, Patrick. C'est pas pour ceux qui y croient que Daniel Raffard de Brienne. Parce que la question n'est pas d'y croire ou pas y croire, la question est de constater les faits. Et donc dans le Libre Journal, il y a un papier où Daniel Raffard de Brienne rappelle des évidences aveuglantes. Et je signale qu'il y a également dans la nef un grand papier de Daniel aussi, inexplicable, vénéré, énigmatique, analysé, ausculté, médiatique, témoin perdu, retrouvé, brûlé, sauvé, dérangeant, polémique, mystérieux, magnifique, insondable, contesté, authentique, le linceul de Turin, merveilleux mystère. Très très bon papier. Comme tout.
Est-ce que vous venez d'énoncer, c'est ce qui résume le papier que moi j'ai relu au bouclage, donc je savais qu'il fallait pas dire ce que tu allais dire.
Voilà. Mais il sera puni, donc vous serez soumis à la question extraordinaire, une fois de plus, vous allez avoir des mauvais moments. Je vous le dis, mon cher Patrick. Mais quand même, ce numéro du Libre Journal m'est particulièrement cher. D'abord parce que c'est le numéro 359. Ça fait quand même donc 359 des 4 qu'on sévit. Et plus, puisqu'on ne sévit pas en été. Ce Libre Journal, il est comme la neige. Paraît pas l'été. Et il est illustré à la une par une photographie du général Anton Ivanovitch Zenikine, dont mon propre grand-père était l'aide de camp. C'est vous dire qu'il y a un peu de la famille. Et je signale à ceux qui ne le savent pas que le général Denikin était le chef des armées blanches et qu'il est également le père d'une personne que nous avons tous au cœur, tous, je dis bien tous, y compris ceux qui ne savaient pas ce détail, puisque c'est Madame Marina Gray, qui a été qui était l'épouse de Jean-François Kiap, bien entendu, et qui était également, qui a été pendant longtemps l'animatrice d'une émission de télévision qui était extrêmement suivie, qui était d'ailleurs remarquablement en fait, et dont j'étais un auditeur passionné. Alors le général Denikin était enterré à Washington, où il était mort. Je crois en 47, c'est ça.
Il était à New York.
À New York. Ouais. Il n'était pas à Washington, inhumé, non?
Oui, je ne sais pas. Dans un dictionnaire historique, j'ai trouvé qu'il était mort dans l'Illinois. New York n'est pas dans l'Illinois. Enfin, il était aux États-Unis.
Il était en tout cas mort aux États-Unis. Et la Russie a enfin organisé le retour de sa dépouille au pays. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est... La cérémonie a été... une cérémonie a eu lieu à cette occasion à Paris. Cérémonie à laquelle, Jean-Gilles, vous avez assisté.
J'étais pas le seul. Il y avait un monde extraordinaire à la cathédrale donc, qui s'appelle Alexandre de la Neva, rue Daru. Et il paraît que un journal là, qui a déshonoré le nom d'un coiffeur avait annoncé la chose, ce qui fait que, mais sans mettre les horaires. Bon, j'ai été alerté par un ami russe et je m'y suis rendu sans me rendre compte. Et je dois dire que le Libre Journal de Serge de Bekech, pour une fois, est un peu en retrait par rapport à des informations dont vont bénéficier les auditeurs de Radio Courtoisie. C'est-à-dire que quand j'ai fait en vitesse ma réaction, c'est que c'est un événement symbolique d'une telle importance qu'on ne pouvait pas passer à côté, surtout toi. Mais je vais donner quelques précisions. D'abord, l'organisateur véritable... C'est ce cinéaste russe qui s'appelle Nikita Makhadov, qui est qui a fait Le Barbier de Sibérie.
Mmh. Magnifique film. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Beaucoup.
Oui, parce que c'est en Russie. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce film.
Il y a une scène inoubliable, c'est la scène de l'arrivée du tsar parmi les cadets.
Oh, bah, défilé, évidemment, défilé avec eux.
Là, on se lève et
on défile, on chante Dieu protège le tsar.
C'est Nikita Mikhalkov dont vous avez.
Oui, pardon. Oui, je parle pas le russe et je voilà, c'est bien de lui qu'il s'agit. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, donc en 98 il fait ce film, en 99 il est chahuté évidemment au Festival de Cannes par peut-être par des gens, des copains de Goffman, je sais pas, enfin de Limonov en tout cas, Jésus Marie Joseph, par des nationaux bolcheviques qui trouvent qu'il a trop de, enfin c'est un des petits groupes ayants, enfin bref, qui trouvent que Nikita a trop de sympathie pour
le bon colonel Poutine.
Je voudrais quand même que le sujet Poutine, c'est autre chose. N'est-ce pas? Ne mélangeons pas tout. Il a trop de sympathie historique pour la vieille Russie.
Ouais. Simplement. J'ai lu ça dans la presse, excuse-moi, j'ai pas dit n'importe quoi, j'ai lu dans la presse qu'on lui reprochait d'être poutinien.
Il est probablement pas très éloigné de sentiments que Vladimirovitch Poutine exprime. Je ne voudrais pas dire, en exprimant ma propre émotion, que il y a un fait objectif, c'est que personnellement cette cérémonie m'a bouleversé. Ce qui m'a bouleversé, c'était de voir côte à côte les plus blancs des blancs, parce que les blancs de Paris, n'est-ce pas, c'est Paris, la capitale de la vieille émigration russe. Il y avait là les plus blancs des blancs, dans lequel il n'y a pas que des princes russes. Notre ami Vladimir Volkov avait vocation à être là, et il est aussi, je crois pas qu'il soit membre de l'association, il était membre de l'association de la noblesse russe. Donc, il faut pas tout mélanger non plus là aussi, mais enfin, il y avait quand même les plus blancs des blancs, et puis, un tout petit peu plus lourdeau, on voyait les post-soviétiques. Et, il y avait l'ambassadeur. Alors le cinéaste dont j'écorche le nom, mais Goffman, qui lui parle le russe, dira comment il faut le prononcer, et tenait le cercueil, ses belles moustaches, tout ça. Il y avait le ministre de la culture de Russie, et tous ces gens étaient venus à Paris. Alors pour nous c'est très normal, Paris, n'est-ce pas, puisque c'est le centre du monde, c'est évident. Mais je voudrais rappeler qu'à mon grand regret, et probablement à celui des gens qui nous écoutent, Paris n'est plus du tout le centre du monde. Du tout. Et alors, il y avait une raison aussi, Marina Grey, elle est pas totalement parisienne, mais elle est en France. La mère de Marina Grey, donc l'épouse du général Denikin, est dans un vieux cimetière bien connu des Russes, c'est-à-dire à Saint-Geneviève-des-Bois. Mais cette cérémonie avait un caractère réconciliatoire que je trouve très intéressant de confronter à l'absence totale de réconciliation historique en France. Bien entendu, il ne s'agit pas de comparer ce qui n'est pas comparable. Par exemple, la fracture de 1962, n'est-ce pas, le 19 mars 1962, bien évidemment, hélas. Moi, je pense toujours le 26 mars, parce que le 26 mars, il s'est passé quelque chose d'autre. Voilà. Mais donc il y a eu cette coupure de 1962 qu'ont vécu les gens de notre génération, Serge, y compris Patrick Goffman, l'a vécu. Il y a eu la coupure de 45, mais il y a évidemment la coupure de 89. Et donc là, vraiment, il y a une volonté, et ça a été dit à Moscou d'ailleurs, ça a été dit de surmonter les fractures de l'histoire. C'est des déclarations officielles. Alors, est-ce qu'il faut rappeler donc Mikhalkov, n'est-ce pas,
Maladiette.
Quand il vient en France, il est chahuté. Quand il se rend dans un pays, en l'an 2000, ce n'est pas la Croatie. Et je regrette qu'il y ait eu cette coupure, bien entendu. Mais c'est en Serbie. Donc il s'est manifesté. Alors on dit il a une position ambiguë entre le totalitarisme communiste, bien entendu, auquel il n'a jamais adhéré. Alors cet ambigu n'est ni un défenseur de du gros pognon international, il est. Alors oui, peut-être monarchiste, il est monarchiste, mais bien entendu parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui renvoie dos à dos les deux barbaries. Mmh. Et enfin, donc
c'est une notion, cette attitude, elle est quand même typiquement russe, elle est vieille. Staline l'avait utilisée à la guerre quand il avait essayé de faire revenir les blancs pour les liquider.
Ah, ça c'est une autre question.
Oui, mais il y a cette passion, cette primauté de l'appartenance à une terre.
Oui, ça c'est une autre question. Honnêtement, je trouve très bien que l'on réconcilie ces deux traditions. Maintenant, la question de savoir jusqu'où l'État russe actuel a le droit de prétendre mettre la main sur tout ce qui est descendant de blanc, c'est une autre question.
Oui, j'entends bien.
Personnellement, je condamne un certain excès qui ne vient pas de l'État russe lui-même. Bien entendu, il y a des gens qui aimeraient bien mettre la main sur des lieux traditionnels russes. Il y a toute une... C'est une autre question. Mais là, il s'agissait de mettre fin à une rupture historique. Par exemple, cette célébration, elle était sublime. Quelqu'un qui ne connaît rien aux histoires de l'orthodoxie aurait dit, bon voilà, toc, ça c'est formidable, une liturgie orthodoxe, elle est toujours très belle. Elle est en général assez belle. Mais là, elle avait une autre particularité. C'était sous la présidence de Monseigneur Gabriel de Coman, qui est donc l'archevêque de la rue d'Aru, mais qui ne dépend absolument pas de l'État russe. Mais absolument pas. C'était à la demande de l'ambassade. Je l'ai entendu de sa bouche donner les précisions de Monseigneur Gabriel. C'était à la demande de l'ambassade, mais il y avait associé les deux autres branches de l'orthodoxie de tradition russe. Bon, c'est pas le sujet de l'émission, je pense. Mais ce qu'il faut voir, c'est que il y a un effort qui est fait par des gens qui viennent quand même de très loin, un effort qui va au-delà de tout ce qu'on aurait pu rêver dans notre jeunesse, de réhabiliter l'ancienne Russie, et nous ne savons pas, toujours pas réhabiliter l'ancienne France. Si je regarde les 200 dernières années, il y a eu une seule époque, en fait, où on a cherché des petits actes symboliques, mais hélas, peut-être un peu trop dans l'autre sens, c'est quand Louis-Philippe a construit, par exemple, à Versailles, le musée de l'histoire de France. Louis-Philippe. Mais pour faire des concessions, hélas, à des gens que nous n'aimons pas, avec qui nous ne sommes pas totalement réconciliés, parce qu'ils continuent à nous écraser la tête. Quand leur chef, là, le président de leur institution, s'adresse à la télévision, j'ai l'impression qu'il m'injurie personnellement. Je crois que je suis pas le seul. Il me parlait l'autre jour, il m'a encore injurié. Bon, donc, en France, on n'est pas capable de faire ça. Alors, je fais une toute petite transition très rapidement. Je suis obligé de me poser la question pourquoi. Et je tombe sur... alors, ça fait rire certains, ça fait rire le marquis préféré. Non, mais bien sûr, ça fait rire gentiment parce que on pense au sectarisme des Framac. On est à Radio Courtoisie, donc oui. On emploie les mots que les Français comprennent. Hein, Mitterrand les appelait les frères la gratouille. Bon, moi je pense que on a une ossification terrible. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui osent mettre ça en cause. Et je me tourne vers quelqu'un qui, je souhaite les vigiles.
Ah ben c'est pas mal. Chacun en fait
de
temps
de moi. De la Saint-Bruno, oui, voilà. Mais on peut pas dire que ça vous fasse tellement faire applaudir par les médias.
Ah non.
On peut pas dire. Alors, les médias sont unanimes.
Je suis très surpris, d'ailleurs.
Bon, alors, quand vous aurez lu, cher Bruno Gollnisch, quand vous aurez lu Socialisme maçonnique, vous serez encore moins surpris. Parce que, manifestement, ce programme qui date d'il y a 70 ans, presque un siècle, enfin, du siècle dernier, hein, ce programme du début du 20e siècle, il n'y a pas bougé.
Alors, on va parler de ce livre qui est passionnant.
Pas de réconciliation.
Et qui explique effectivement pourquoi on ne peut pas imaginer en France, ce qui vient de se passer.
Je suis un peu navré de faire le rapprochement, mais pourtant ils sont aux yeux. Et on pourrait trouver d'autres exemples dans l'actualité.
Avant qu'on change de sujet, il faut, pour une fois, je fais pas machinalement, mécaniquement la promotion du Libre Journal. Je dis vraiment très sincèrement que, aux auditeurs, que le plumage de Jean-Gilles Maliarakis est plus brillant encore que son ramage, si c'est possible, et que vraiment la version écrite, rédigée qu'il a donnée de cet événement dans le journal Mémoire éternelle pour le général Denikine est vraiment remarquable. Ça se compose d'un compte rendu très émouvant de la cérémonie dont vous venez de parler, et puis il y a un petit appareil critique. Alors malheureusement, ouais, on a peu de place, on a été obligé de le mettre dans un tout petit corps. Moi, comme secrétaire de rédaction, j'ai pris mon stylo rouge et j'allais lire ça, puis je l'ai lu, puis je me suis dit bon, bah les gens que ça intéresse, et il y en aura, ils prendront une loupe, voilà. Et c'est un appareil critique politique, littéraire, qui est passionnant également. Merci de nous donner ça, Jean-Gilles. 5 voilà, euros.
Alors, il nous donne aussi un livre, alors, dont il est l'éditeur, qui est un livre, c'est une réédition, hein, c'est un livre de A.G.
Michel. Tu veux que je raconte ce que c'est, comment?
On a tout le temps.
Alors, A.G. Michel, c'est un mystère pour moi. C'est dans le fond des éditions Space. J'ai découvert une petite brochure du Père du Passage qui s'appelle Le Secret des Loges, qui est contemporaine de ce travail. Alors, le Père du Passage, Bruno Gollnisch sait de qui je parle, c'était le directeur des études de la revue de la Compagnie de Jésus. Je pense, mais je n'en ai pas la preuve, qu'A.G. Michel a été un documentaliste, qu'il était le documentaliste de la Fédération Nationale Catholique. C'est autre chose que, par exemple, la Revue Internationale des Sociétés Secrètes, et son boulot est extraordinairement différent du langage d'autrefois, mettons, d'une certaine tradition catholique qui ne s'intéressait qu'à condamner le côté religieux de la maçonnerie. Je ne suis pas en train de dire que c'est un discours ringard, car quand on va au fond du discours, par exemple, des papes du XIXe siècle, on se rend compte que c'est au contraire un discours prophétique. Dans une langue surannée, bien sûr, mais c'est un discours prophétique. Même le syllabus, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul Valadier. Ça vous dit quelque chose, Paul Valadier? Oui, c'est ce qu'il y a de plus à gauche dans la... Voilà, il l'explique très bien dans sa lettre à un chrétien impatient. Donc, je m'adresse à des auditeurs de Radio Courtoisie qui, eux, sont très patients, mais je vais quand même être bref pour dire, A.G. Michel, pour moi, est un mystère, je vais essayer d'éclaircir. Et ce bouquin va être donc publié en deux parties. La première, c'est Socialisme maçonnique, c'est-à-dire le programme de politique intérieure de ces vieux rogatons du Grand Orient. Et la deuxième partie sera mondialisme maçonnique, c'est-à-dire l'étude du programme de politique extérieure. Et alors là, c'est stupéfiant, parce que là aussi, ce qu'on appelle l'Europe, entre guillemets, ce n'est pas autre chose que ça. C'est-à-dire, il pense pour le monde en France. Un débat, il pense d'abord à la place des Français, même Mitterrand l'a dit. Vous blessez les gens que vous excluez de votre confrérie. Alors, dernier point, on me dit, vous te mettez encore en train de ressortir une vieillerie. Ben, je dis non, pourquoi ce syndicat de médiocres, de petits arrivistes au pipé, qui font d'ailleurs de la pub dans les grands journaux pour dire, venez chez nous, ça va faciliter vos histoires bancaires, mais qui sont pas capables de nous aligner un intellectuel de qualité. Je veux bien qu'ils mettent des grandes banderoles en citant Saint-Exupéry qui faisait pas partie de la confrérie ou Guénon qui l'a quitté. Mais aujourd'hui, hic et nunc, si même dans les intellectuels politiquement corrects, je crois que même Taguieff n'en fait plus partie.
Mais on peut même dire le contraire. C'est-à-dire que c'est chaque fois qu'il y a un homme de qualité chez eux, il finit par foutre le camp. Je ne parle pas de moi, je parle de Joseph de Maistre.
Oui, c'est une autre époque.
Mais bien sûr, mais enfin, il en est quand même.
Non, parce qu'il y a quand même une grande rupture chez eux en France. C'est quand ils deviennent un parti politique, officiellement, en 1877. Et c'est ça le mécanisme. C'est-à-dire qu'on fait résonner des gens qui sont finalement
pas très compétents, qui restent englués dans des vieilleries, on les fait, et qui imposent un système de serre-file. Ne bouge, sors pas du défilé là. On est là pour crever la droite, pour sauver la laïcité. Attention au complot clérical, attention au pacte des loups. Vous vous souvenez de ce film?
Oui.
Il faudrait faire un truc. Moi, j'ai découvert tardivement que ce film a été programmé après la sortie en anglais, c'est The Brotherhood, mais ça vient après le livre qui a amené le grand anti-maçonnisme anglais. Enfin donc, regardez ce film aberrant. Historiquement, il n'y a jamais eu de pacte des loups. Hein, je parle sous contrôle de Patrick Goffman qui a vu le film et qui très objectivement sait que la droite est incapable de s'unir, en tout cas. Ça, nous le savons.
Ça, c'est clair.
Bon, et donc, ils disent, et attention, il y a un complot clérical. Ouais. Alors, dans le bouquin, on découvre, mais ils racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça marche toujours. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans le complot, c'est eux.
Oui, mais ça, on comprend assez bien. On a toujours besoin de boucs émissaires. On a toujours besoin de... Alors, il y a des boucs émissaires qui deviennent intouchables. Il faut en trouver d'autres. Alors, les curés, ça fait bien l'affaire maintenant. Surtout que maintenant, c'est un vrai bonheur, quoi.
Je veux dire, chez les maçons, le problème, c'est qu'ils n'ont plus de curés. C'est un autre problème. Ils en ressortent quand même.
À force de chasser, ça finit par dépeupler les régions les plus giboyeuses.
Le vrai secret de la franc-maçonnerie, c'est qu'il n'y a pas de secret.
Il n'y a pas de secret.
Alors, je rapproche ça. Alors, je lis ça dans le Louvre Journal, une fois de plus, excusez-moi.
C'est un gars que je connais bien, que j'aime bien, d'ailleurs, qui a écrit ça.
Alors, je rapproche ça de la description de syndicats de médiocres, de pharmaciens et de notaires de province qui s'amusent à comploter et à se déguiser.
Je défends les pharmaciens et les notaires qui sont des entrepreneurs indépendants de qualité. Mais enfin, oui, voilà.
Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et donc, je me demande si Le Monde 2, Le Monde Magazine, il y a 15 jours, n'a pas raison quand il nous annonce à la une que cette espèce de club, de société secrète, d'ailleurs complètement inadmissible dans une société démocratique, devrait disparaître d'ici une vingtaine d'années.
C'est ridicule de dire ça. Elle disparaîtra peut-être sous l'effet du ridicule. Elle ne disparaîtra pas sous l'effet de la persécution.
Ah, certainement.
Hein?
Ah,
oui. Je crois que ce qui les tue, c'est le ridicule.
Oui, voilà.
Hein, c'est le ridicule et c'est de regarder vraiment ce qu'ils véhiculent intellectuellement dans la patrie de René Descartes. Car, en définitive, leur plus grand véhicule d'influence, c'est quand même l'astrologie. Donc, je suis pour dire ce que c'est que ce truc-là, sans phare, sans haine, sans violence.
Hein. Ça va être...
Quand tu penses à Bert
Stagiaire,
c'est ça, oui. Sans haine ni violence, c'est-à-dire véritablement ce que c'est, mais quand même de ne pas sous-estimer l'influence de cette chose-là, dont le verrouillage est total. Enfin, quand on assiste à certains sectarismes politiques, on sait très bien
d'où ça vient.
D'où ça vient.
Bien sûr. Ouais. Faut peut-être préciser que le coup de la banque, ça marche pas pour éviter qu'il y ait des gens qui se dérangent pour rien.
Oui, ça marche pas.
Ça arrange les coups bancaires. J'en connais qui seraient restés sans ça, mais sinon.
D'accord. Bon, mais il faudrait pas non plus se laisser, ébranlé par ce discours de Jean-Gilles qui nous dit bon c'est finalement il y a un côté ridicule, il y a un côté la médiocrité, il y a un côté péremptoire et même méremptoire quand il s'agit de quand il s'agit des loges féminines. N'empêche que ces gens-là qui sont tout ça, c'est parfaitement vrai, pour te dire, c'est moi qui ai écrit que le secret de la maçonnerie, c'est qu'il n'y a pas de secret. Ce qui m'a valu d'ailleurs d'être accusé d'être un agent de la maçonnerie qui fait croire qu'il n'y a pas de secret. Je vous promets qu'il n'y en a pas, tout simplement, parce que c'est des gens qui...
Il n'y a rien.
C'est le roi nu. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas de secret, mais ils ne veulent surtout pas que ça se sache parce que ça perdrait son charme. Moi, je suis entré là-dedans parce que je croyais qu'il y avait un secret. Quand je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas, j'en suis sorti.
C'est l'auberge espagnole qu'il faut venir avec
ses petits secrets personnels. Bon, cela dit, j'ai rencontré des gens gentils, j'ai rencontré des sales cons, ça c'est indiscutable. Mais c'est vrai que je n'ai pas rencontré de personnages gigantesques, enfin d'intellectuels gigantesques. Et c'est vrai que par exemple, les fameuses planches tracées, c'est-à-dire les conférences qu'on nous assène dans les tenues. En général, c'est accablant. Enfin, c'est, je me souviens de planches tracées qui avaient été lues par un gérontologue qui nous a fait un truc sur les vieillards. Enfin, il nous a lu un article de vulgarisation scientifique, médicale, qu'il avait dû pondre pour une revue financée par un laboratoire. Et c'était à pleurer d'ennui. D'ailleurs, tout le monde ronfle. Bon, bah c'est ça, voilà ce qui se passe là-dedans. Alors, il y a cet aspect indiscutable. Mmh. Mais il y a l'autre aspect qui est démontré par le livre Socialisme maçonnique, c'est-à-dire que derrière tout ce...
Il faut répondre à la question, pourquoi ce truc de médiocre exerce un tel pouvoir, et un tel pouvoir invariant.
C'est ça. Il y a derrière cette espèce de glacis, de médiocrité, de trucs tristes, de bécassons, de décors ridicules, de tabliers, de tout, il y a un véritable travail de sabotage, de flicage de la société, d'infiltration, mais surtout de serfile. Ça, j'aime beaucoup l'expression qu'emploie Jean-Gilles, parce que c'est exactement ça. Et là, on le voit dans ce bouquin d'une façon absolument lumineuse. Or, c'est un bouquin qui n'a pas été écrit hier.
Oui, alors c'est ça qui est curieux, c'est que je me suis remis à apprendre tout ce qui a été publié sur le sujet. Et on s'aperçoit, et ce livre n'est pas le seul dans ce cas, tous les livres un peu sérieux, dès lors qu'il s'agit du politique, je m'avance pas du tout sur les questions symboliques, d'abord ça m'ennuie, c'est une pensée à laquelle je ne comprends pas grand chose, mais dès qu'il s'agit du politique, ça n'a pas pris une ride. Leur mécanisme n'a pas pris une ride, alors que le monde, lui, a évolué. Même les plus rouges de chez rouges, enfin si on lit Trotsky, ça a changé, sauf ceux qui sont encore dans le programme de transition. Mais d'ailleurs, curieusement, les Trotskistes qui sont encore dans le programme de transition, c'est-à-dire les Lambertistes. Hein, les gens qui croient encore qu'il faut 36, 37, je ne sais plus, enfin ce programme qu'avait écrit, n'est-ce pas, Trotsky à un moment de l'histoire très précis, en
38,
voilà, un moment où il faut marier l'antifascisme. Bon, eh bien, ces gens-là, c'était quand même dans notre jeunesse, ils avaient des gros points. Ils avaient aussi une chose que je respecte physiquement, mais ils avaient quand même pas beaucoup de tête. Et ils passaient quand même, on disait l'affaire est dans le sac, par exemple. On disait, des choses comme ça.
Faut traduire pour les moins de 20 ans.
Oui, pour les moins de 20 ans. C'est-à-dire, l'affaire, c'était la Fédération des étudiants révolutionnaires, le sac du service d'action civique. Donc c'était, ces gens-là sont aujourd'hui le Grand Orient de France.
C'est ça, oui, absolument.
Je ne dis pas qu'ils sont au Grand Orient de France, ils sont le
Grand Orient. Ça a commencé depuis longtemps.
C'est-à-dire
Zeller, qui était quand même le secrétaire de Trotsky, était...
Oui, mais il était un cran au-dessus. Je dirais que Fred Zeller, dans un livre que personne n'a lu, mais qui mérite d'être consulté, qui s'appelle « Non, question à la Révolution, un dialogue avec Krivine ».
Et ça, bon.
C'est avec Krivine qui dialogue, c'est pas avec Lambert. Je dirais que dans un phénomène de décadence, il y a toujours pire. Fred Zeller est, j'ose le dire, un grand homme comparé aux innommables actuels. Même Boer, dont pourtant, alors Boer aussi, n'est-ce pas, plus le singe monte haut, mieux on voit sans derrière. Quand il a publié un livre. Il a publié un livre, c'est-à-dire ça a 150 pages, c'est des taches noires sur un papier qui a été blanc, et donc on retourne les feuilles et on dit j'ai lu le livre, moi je l'ai lu, il est au-dessus des gens qu'il est en train de quitter. Et c'est parce qu'il se dit je vais pouvoir être secrétaire d'État de Sarkozy que
voilà, il prend son envol. Donc Zeller, c'est mieux que Boer. Boer, c'est au-dessus des gens qui sont. Donc c'est quand même, c'est pas très haut. Et même Fred Zeller est un grand artiste puisque comme chacun sait, il était peintre.
Peintre.
Ils auraient très cher aux États-Unis, mais alors, aux États-Unis.
Voilà ce que dit le bouquin. Je lis le prière d'Ancien parce que c'est ce qui est le plus simple et le plus clair. Le projet du socialisme maçonnique vient de loin. Ce livre le démontre. Il explique comment les francs-maçons du Grand Orient gouvernent la France depuis un siècle, basé sur l'esquema scrupuleux et systématique de tous les textes politiques adoptés par les convents annuels du Grand Orient de France, parfois rejoints par des décisions analogues émanant de la Grande Loge. Les véritables auteurs de ce livre sont donc en quelque sorte les francs-maçons français eux-mêmes, dont le complot est ainsi dévoilé. Effectivement, il y a une succession de citations qui est tout à fait édifiante.
Voilà, pour les gens qui cherchent à avoir des arguments, ils les trouveront là-dedans.
C'est pas une rêverie de monomaniaque comme j'aurais
dit. Non, le Père Michel, pas du tout.
C'est un vrai travail de compilateur de citations. Et le gars, Michel apporte une information, il dit voilà comment il travaille, et puis juste derrière, il assène les citations qui prouvent que ce qu'il dit n'est pas inventé.
Alors, je suis preneur d'informations sur l'abbé Michel, donc il y a des toutes petites mentions dans l'histoire de la Fédération nationale catholique qui vient de sortir. Je pense qu'en fait, c'est un jésuite qui a fait un travail de bénédictin, si on veut dire. Mais je pense que c'est un pseudonyme, mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il n'est dans aucune des livres, dans aucun des livres de référence que nous aimons bien utiliser, comme Coston, par exemple. Oui, l'indispensable Coston. Ou le futur indispensable Ratier tome 2, il n'y est pas. Notre ami Ratier, qui est quand même un spécialiste, ne connaissait pas son existence. Enfin, je dis ça en toute amitié pour Ratier. Donc ce personnage un peu discret, qui a publié donc jusqu'aux années 40, et pour cette fameuse Fédération nationale catholique, c'est à faire, à mon avis, un travail très étonnant dont on doit se servir aujourd'hui. Voilà. Écoute, il faut dire que c'est en vente dans toutes les bonnes librairies. La rue de la Sourdière, dont je salue la réouverture.
La résurrection.
La résurrection, oui. Samedi, ils recueillent même Bouzard qui vient signer ses livres sur les chansons. C'est bien plus marrant qu'un livre sur les francs-macs.
Alors, exemple.
Saboter les bébés.
Cinéma et la radio. Alors, Michel écrit, les francs-maçons doivent utiliser tous les moyens de la propagande et en particulier le cinéma et la radio. Cette presse de l'avenir, il répète la télévision n'expliquait pas. Et alors ici, Convent du Grand Orient 1929, page 73-74, le Conseil de l'Ordre est tout disposé à employer tous les moyens de propagande. Des frères ont organisé des auditions à la radio. Nous les avons subventionnés.
Alors c'est une époque, alors c'est assez marrant parce que à cette époque, et c'est la seule chose que j'ai changé typographiquement dans le livre, c'est qu'ils employaient le mot TSF.
Oui.
Bon, alors mais c'est une époque où ils disent le cinéma et la TSF sont entre les mains de la réaction. Alors est-ce que les émissions de TSF de 1922, j'en ai pas écouté beaucoup, mais des films de l'entre-deux-guerres entre les mains de la réaction, j'en ai pas vu beaucoup. Et pourtant j'en ai vu des films de l'entre-deux-guerres.
C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup.
C'est extraordinaire.
Et je pense qu'il n'y a pas de raison d'imaginer que la radio fonctionnait sur un rythme différent.
Mais nous, on a le complot judéo-maçonnique et eux, ils ont le complot cléricalo-réactionnaire. Il n'y a pas de raison qu'ils soient privés.
Complot judéo-maçonnique, Patrick Hoffman.
Non, mais je m'adresse pas à vous en particulier. Je parle de notre famille de pensée. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Et il y a une symétrie, c'est-à-dire qu'à l'autre bout de l'échiquier politique, oui, on croit à un complot clérical. Et là, effectivement, c'est fascinant parce que qu'est-ce qu'on dit, nous, des grands médias et du cinéma, qu'il est dans les mains de qui?
Non, alors la différence, là c'est pas, même les paranoïaques ont des ennemis, n'est-ce pas? Je voudrais dire une chose très précise, c'est que la différence, c'est que c'est vraiment les bolchos qui tiennent les médias.
C'est pas n'importe qui allume la radio, notamment en France Finter, peut s'en convaincre en quelques secondes.
Bon, en 10 secondes, nous sommes le 5 octobre. Du matin au soir du 4 octobre, France Inter, Radio d'État, diffuse l'information sur la grève, la mobilisation, etc., sur la base des chiffres donnés par la CGT. Oui.
C'est tout, point. Sans dire ceux de la police qui, en général, sont... Pourquoi les ceux de la police sont les bons?
Ben, parce qu'ils comptent. Ils comptent,
absolument. Ils comptent les têtes et pas les pieds. Hein. Et donc, les unijambistes comptent pour un manifestant. Et ensuite, ils font compter par des types d'ERG de nuances dont on sait bien qu'ils sont différentes. Et puis... bien sûr, c'est pas une...
Ils font une péréquation.
La science policière n'est pas une science exacte, et je ne suis pas un admirateur de la science policière, mais entre les flics et la CGT, je sais où est la vérité.
La science militante.
Voilà, oui.
Voilà, donc ce livre vaut 25 euros, il s'appelle « Socialisme maçonnique » et j'en recommande très très fortement la lecture parce que c'est vraiment, les citations sont passionnantes à lire, on voit que on est en face véritablement d'un complot, c'est-à-dire d'une démarche organisée, secrète, pour prendre le pouvoir dans les esprits
et le garder par l'école. Ouais. C'est la conclusion très étonnante de la partie absolument. Intérieure. C'est que l'école n'est pas du tout conçue ni pour enseigner ni pour éduquer, mais pour conserver le système.
Pour nos auditeurs du Québec, de Californie et de Tokyo, oui. qui n'ont pas accès ni à la librairie de la Sourdière, ni à la librairie du Petit Pont France Livre, vente par correspondance, 25 euros pour ce volume, aux éditions du Trident, 39 rue du Cherche-Midi, 75-06 Paris.
Il est bien. Et voilà un exemple de citation totalement prophétique. Convent du Grand Orient 1929, page 151. Les cléricaux comprennent très bien que le jour où l'école sera républicaine, s'en sera fait de leur règne. C'est sur ce terrain seul que se livre la lutte.
Et ça continue, c'est ça qui est...
Merci Jean-Gilles d'être venu nous...
Oui. Petit message. Le retour du général Denikine préfigure le retour de la Sainte-Russie, comme cela est chanté dans l'hymne russe. Et savez-vous, M. Maliarakis, qu'on a fait venir de Moscou le chœur Stretnisk qui s'est joint au chœur de la rue Daru?
Ah, eh bien, bravo pour ce chœur qui chantait merveilleusement bien en slavon, hein, mais quand on connaît un peu cette liturgie, on arrive à la suivre sans comprendre le slavon.
Je possède un livre, La France sous l'étreinte maçonnique.
C'est le même. Alors arrêtez de n'achetez pas le socialisme maçonnique. C'est la partie politique intérieure. C'est le même. C'est le père AG Michel
Lambesson. Achetez le socialisme maçonnique pour comparer.
Si vous n'avez pas la France.
Les qualités typographiques.
Vendez le vôtre. Achetez l'autre.
Merci. À propos de l'attentat de Limoges que je signalais, l'attentat contre la cathédrale de Limoges que je signalais au début de l'émission, un auditeur me dit qu'il a été annoncé sur RTL et dans 20 minutes, lundi ou mardi. Oui, non, mais il a été annoncé aussi dans le Populaire du Centre. C'est-à-dire, ils ont dit, il y a eu un attentat. Enfin, il y a eu une explosion, pas un attentat.
Il y a eu un accident. Ça a été présenté comme un accident sur France Info.
L'explosion d'une bouteille de gaz sur un échafaud, dans la cathédrale de Limoges. Mais imaginez simplement.
Oui, d'accord.
Que ça soit produit dans une mosquée ou dans une synagogue, oui, et comparer le sort qui a été fait à cette information avec celui qui aurait été fait à la même information si ça s'était déroulé
dans
un bâtiment différent. Voilà. C'est tout, c'est ça que je veux dire.
Que ça.
Voilà, et puis, dernier message, savez-vous ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dans la basilique du Sacré-Cœur? Oui, absolument. Il y a eu une invasion de voyous divers à la faveur des nuits blanches organisées par Monsieur Delanoë.
Je précise que ça ne surprend personne à Montmartre, hein. Hélas.
Et une auditrice vous dit « Je m'amuse beaucoup de vos querelles de cloches et politiques alors que nous allons être mangés soit par les Chinois, soit par un califat islamiste. »
Ah bon?
Aujourd'hui,
hein,
c'est nier l'évidence, c'est ça que vous voulez dire. Alors on va recevoir maintenant le docteur Nuham qui a écrit, qui a consacré un livre à la médecine des urgences et qui, j'espère, va faire son entrée parce que au moment où j'ai annoncé qu'il allait rentrer, il est parti en courant vers la porte, qui ne laisse pas de m'inquiéter. Entrez, docteur, posez votre manteau où vous voudrez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il ne sera pas volé, enfin pas par moi, parce que tout le monde me regarde. Asseyez-vous, docteur, je vous en prie. Voilà. Alors, je vous présente le docteur Plantet. et le docteur Nuham. Le docteur Planté est venu nous rendre visite. Je m'en félicite en passant, c'est à la fois au sens verbal et au sens nominal. Oui. Du mot, c'est-à-dire qu'il est venu en passant et il est passé. Voilà. Ça s'arrange pas. Il est temps que cette émission se termine parce que je pense qu'on va avoir besoin de.
Il est 20h15 et vous écoutez Radio Courtoisie.
Voilà. Alors, docteur, vous avez une idée qui paraît étrange au départ, c'est de consacrer un livre à cette question, quand faut-il faire appel aux urgences, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors, ça paraît paradoxal parce que, si vous voulez, quand ce genre d'occurrence se produit, la chose à laquelle on pense le moins, c'est d'ouvrir un livre pour savoir ce qu'il faut faire. Donc le truc consiste à décrocher son téléphone et à faire le 15, et à mon avis, de préférence le 18, j'ai dit pourquoi au début de l'émission, surtout si vous avez plus de 70 ans. Vous avez entendu parler de cette histoire, il paraît que les services du 15 ne se déplacent plus quand l'urgence atteint une personne de plus de 70 ans.
Je ne crois pas.
C'est-à-dire, vous ne croyez pas à ça ou
je ne crois pas du tout que ça soit que ça se passe comme ça. Non, non.
Bon, parce que c'est ce qui a été déclaré à des stagiaires en Bretagne.
Voilà, des stagiaires de quel
stage de secourisme avec les services d'urgence.
Non,
vous n'y croyez pas.
Non, la décision d'envoyer des secours ne dépend pas forcément de l'âge. Ça dépend de la pathologie. Si on a affaire à une pathologie qui nécessite d'envoyer un secours d'urgence rapide, médicalisé, de la réanimation, on le fait, quel que soit l'âge de la personne, qu'elle ait 60, 70, 80, ça changera rien à la décision. Mais si on estime que c'est pas la peine d'envoyer, on n'en verra pas. Mais ça dépend pas de l'âge non plus.
Alors, là on arrive au cœur du sujet, c'est-à-dire à la raison d'exister de votre livre. Comment peut-on... En général, la personne qui vous appelle, c'est quelqu'un qui est totalement béotien, qui connaît rien à la médecine et probablement qui est même pas secouriste, qui dit voilà, ma mère vient de perdre connaissance, ou mon fils vient de tomber dans l'escalier. Quels moyens avez-vous d'établir l'urgence du cas?
Vous parlez d'une personne, donc, X ou Y, qui est chez elle.
Moi, par exemple, je téléphone, parce que la tête, et voilà, c'est tout.
Oui, tout à fait. Le principe de ce livre, pourquoi a-t-il été écrit? Qu'est-ce qui a pu me motiver? Eh bien, je travaille dans un centre 15. Un centre 15, c'est un SAMU. C'est un endroit où les gens appellent, comme vous dites, on fait le 15, et on arrive au SAMU. J'y travaille depuis de nombreuses années et j'ai constaté depuis toutes ces années de pratique que très souvent les lignes sont encombrées par des appels qui ne devraient pas arriver là. Mais c'est pas de la faute des gens. Attention, je n'accuse personne, je n'incrimine personne. Donc par des appels qui ne devraient pas arriver là mais qui arrivent quand même, donc il y a une raison. Pourquoi avoir établi un service de haute technologie comme le centre 15 SAMU pour qu'on ait tous les jours des centaines d'appels qui ne devraient pas y arriver? Là, il y a un problème déjà.
Mon fils a éternué
Déjà, là, il y a un premier problème. Deuxième problème, on constate que beaucoup de personnes qui ont de véritables urgences vitales, je parle de l'infarctus du myocarde, je parle de l'accident vasculaire cérébral, entre autres, eh bien, beaucoup de personnes qui ont ces pathologies n'appellent pas les services comme le 15, par exemple.
Par l'entourage, parce que la personne qui a un AVC...
Les gens, quelqu'un qui a une douleur dans la poitrine, et beaucoup de gens qui ont mal dans la poitrine appellent, mais ils n'appellent pas le 15. Alors que les lignes du 15 vont être, comme je le disais il y a 3 secondes, encombrées par des gens qui n'ont, entre guillemets, rien à y faire. Mais c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on les a pas, on leur a pas dit. Hein. Encore une fois, je n'incrimine personne. Quand on se sent paniqué ou en danger, on appelle le 15. C'est normal et il faut le faire. Donc faut pas accuser les gens d'appeler pour rien, c'est pas de leur faute. Mais moi, ce qui me peine dans cette histoire, c'est que nous avons des services qui sont faits pour prendre en charge de véritables urgences vitales, et que les gens qui en ont besoin ne le font pas. Donc déjà, c'est la première raison de ce livre, apprendre à reconnaître une urgence vitale, savoir qu'existe l'infarctus du myocarde, savoir qu'existe l'accident vasculaire cérébral et d'autres urgences que je détaille dans le livre.
Alors justement, quelles sont les urgences auxquelles vous êtes le plus souvent confronté?
Au SAMU, au centre 15.
Oui.
Eh bien, au centre 15, la personne qui va répondre au téléphone, c'est un auxiliaire médical, c'est ce qu'on appelle un paramédical, qui est formé à l'écoute. Donc, cette personne va recevoir l'appel et elle va, après avoir noté les coordonnées de l'appelant, bien entendu, va transmettre à un médecin qui reste rivé derrière son téléphone pendant toute la durée de sa garde, qui s'appelle le médecin régulateur. Et ce médecin régulateur, il est chargé justement d'écouter la personne qui appelle et d'essayer de trier les symptômes et de voir si c'est vraiment une urgence vitale ou une urgence moyenne ou pas d'urgence du tout. C'est son travail, il est là pour ça.
Alors la question que je voudrais arriver à tirer au clair, c'est comment peut-on, sur le témoignage de quelqu'un qui ne connaît rien à la médecine, qui n'a aucune formation,
oui.
Qui ne connaît même pas les termes oui. basiques, je dirais, hein, comment peut-on se fonder sur ses propos pour déterminer si une urgence est réellement une urgence ou si c'est simplement une panique
Ben justement, il ne faut pas chercher à employer des termes médicaux quand on appelle le 15. Justement, il ne faut pas. Il faut décrire la situation telle qu'on la voit. Par exemple, lorsque je suis derrière mon téléphone et que quelqu'un m'appelle, je pose la question, est-ce qu'il respire ? On me répond oui ou non. Il respire ou il ne respire pas ? Non, vous voyez,
ça me fait penser à...
C'est basique, mais...
À ces histoires qu'on raconte à propos de l'informatique, en disant, je vous téléphone parce que mon ordinateur ne marche pas. Oui, monsieur, est-il branché ? Ah non. Bon, ben, essayez de voir. Si vous le branchez, il marchera peut-être. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il respire ? Non.
Voilà,
bon, ben, alors,
appelez
les pompes funèbres.
Non, pas du tout. Non, mais bon. Vous voyez, ce sont des questions. Nous posons des questions auxquelles il faut répondre simplement, sans chercher à interpréter surtout. Surtout ne pas interpréter. Ne pas dire, j'ai mal à la tête, j'ai une sinusite. Non, vous avez mal à la tête. Après, on verra si c'est peut-être une sinusite.
C'est une passion bien française que de suggérer, d'en remontrer à son curé, de suggérer un diagnostic.
Tout à fait, absolument. Vous avez tout à fait raison.
Le père Planté m'a raconté 100 fois les gens qui viennent le voir en disant, mais voilà, j'ai ça, je pense que j'ai ça. Et ben, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous venez me voir.
C'est partagé par les médecins aussi. Ouais. L'art de donner, de dire, vous avez une paralgésie machin qui est du grec sur le diagnostic de la concierge, c'est une grande spécialité française. Vous vous souvenez dans les morticoles.
Oui.
Tu peux avoir un grand professeur, il lui dit, monsieur le professeur, j'ai mal à la langue, qu'est-ce que j'ai dit ? Vous êtes quoi dans la vie, prof de grec ? Comment on dit grec comment on dit langue ? Glossaine. Vous avez une glossite. Ça fait 200 louis d'or. C'est une spécialité de chez nous.
Il y avait la virose aussi que j'aime beaucoup.
Ah ouais, moi j'en ai connu des.
C'est une virose.
Une petite virose.
Enfin, on n'est pas là pour dire du mal des médecins, surtout qu'ils sont pratiquement plus nombreux que nous autour de cette table.
C'est plus costaud.
Oui, ça sûrement. Donc, en tout cas, en ce qui concerne François, il est plus entraîné. Alors, donc, la question aussi que je vous posais, c'est celle de la nature des urgences les plus courantes. Est-ce qu'il y a plus d'accidents, de chutes ou de...
Vous avez bien entendu les deux grands types d'urgences au SAMU, la traumatologie, accident de la circulation tout venant, moto, voiture, etc. Enfin, tous les accidents qui peuvent arriver. Et puis, les appels médicaux. Donc, les gens qui pensent avoir un symptôme inquiétant, j'ai mal à tel endroit, ou je me sens pas bien, j'ai un malaise, j'ai un vertige, enfin bon, tout ce qui peut inquiéter, tout ça arrive au 15, et c'est le rôle du médecin régulateur de trier tout ça, justement, pour essayer de classer en quelque sorte l'appel. Est-ce que c'est une détresse vitale ? Autrement dit, est-ce qu'il y a risque de mort imminente ? Bon, là, s'il pense que oui, s'il y a la moindre suspicion, c'est l'envoi d'un SMUR, d'une ambulance de réanimation, donc l'ambulance médicalisée avec médecin réanimateur à bord. S'il pense au téléphone qu'il n'y a pas de risque de détresse vitale, donc pas de risque de mort immédiate, mais peut-être un risque d'aggravation, on ne sait pas, dans les heures qui viennent, eh bien, il décidera d'envoyer une ambulance, simplement, pour transporter le malade aux urgences de l'hôpital, donc pour l'hospitalisation. Et s'il pense qu'il n'y a ni détresse vitale, ni risque d'aggravation immédiate, c'est une pathologie qui inquiète le malade, mais qui, malgré tout, n'est pas grave. Alors ça, on lui explique au téléphone, on le rassure, on est là pour ça aussi, pour le rassurer. Hein. Donc on lui rassure, on lui explique que c'est pas si grave que ça, mais que... Il vaut mieux quand même qu'un médecin s'en assure. Donc, c'est l'envoi de ce qu'on appelle la permanence des soins. autrement dit le réseau, le maillage du territoire par les médecins généralistes de garde, qui se charge de ça, soit en se rendant à domicile, soit c'est le malade qui, s'il est sur ses deux pieds, va se rendre dans une maison médicale de garde.
Alors là, on a un exemple, une auditrice qui téléphone en disant, mon mari a fait un arrêt cardiaque au mois de janvier, j'ai appelé le 15, on m'a posé des questions, notamment sur son âge. Et le SAMU est arrivé 15 minutes après les pompiers, c'était trop tard, il est décédé. Comment c'est possible ce genre de situation ? En dehors du fait que peut-être que la crise cardiaque était mortelle.
Le principe dans un arrêt cardio-respiratoire, déjà c'est de le reconnaître. Et je vous assure que bon nombre de personnes ne comprennent pas dans l'immédiat que leur conjoint ou une personne à côté d'elle sont en arrêt cardio-respiratoire. Une personne qui est allongée dans le silence, comme ça, il faut se poser la question. Bon, c'est déjà bon. À moins que c'est une personne qui tombe devant vous, quand c'est manifeste, c'est manifeste. Mais c'est pas le cas. C'est une personne qui est assise dans son fauteuil, qui regarde la télévision ou à table. Et qui perd conscience, et il faut réaliser que c'est un arrêt cardio-respiratoire. Ouais. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens ne sont pas des médecins. Une fois que c'est réalisé, qui appeler ? Les pompiers, le SAMU, on panique un peu, on appelle. Déjà, tout ça, c'est du temps qui passe. Et il faut savoir, dans un arrêt cardio-respiratoire, le temps qui passe, c'est du temps de perdu.
Et sans heurter les sentiments de cette dame, on peut dire que 15 minutes pour une intervention, c'est quand même pas un scandale.
Non, la question n'est pas de dire que c'est un scandale. La question est de savoir comment ça fonctionne, pour que les gens puissent faire appel à ces services.
La première phase, c'est la reconnaissance de l'arrêt cardiaque. Donc c'est un peu aussi ce que j'expose dans le livre, parce qu'une fois qu'on l'a lu, on est un peu familiarisé avec la chose, donc on y pense.
Oui, alors justement, votre livre, il consiste à donner des signes à la portée
de tout le monde,
de gens simples qui n'ont aucune formation.
Oui, aucune formation.
Qui disent, c'est peut-être ça. Seulement, le problème, j'en reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une situation d'urgence ne va pas se référer au livre.
Non.
Donc il faut lire le livre avant et avoir présent à l'esprit ce qui fait la différence entre une urgence et ce qui n'est pas une urgence. Et moi j'ai l'impression que c'est plutôt un livre qui est utile à des gens qui risquent d'être placés plus couramment dans des situations d'urgence. Je veux dire des chefs scouts ou des gens qui travaillent dans ou qui ont des personnes âgées autour d'eux ou qui ont beaucoup d'enfants. On voit bien le propos de votre livre qui est en fait de créer les conditions d'un désengorgement des accès téléphoniques au 15.
Le problème qui se passe dans ce pays, c'est un problème, regardons les statistiques. 10 millions de passages tous les ans dans les services d'urgence. 10 millions, c'est un Français sur 6. C'est 4 ou 5 millions de visites à domicile des SOS médecins. Ça représente aussi beaucoup de personnes. Dans un département comme le mien, il y a environ une personne sur 3 ou une personne sur 4 qui appelle le 15 tous les ans. Donc ça concerne plus que les chefs scouts, ça concerne tout le monde.
J'entends bien, mais alors là on sort un peu du débat, parce que ça c'est réellement ce qu'on appelle là une question de société.
Mais c'est une question de société, oui.
Dans un pays comme la France, où vous dites qu'il y a 10 millions d'urgences, 5 millions de visites, et que dans certaines régions, une personne sur 4 appelle tous les ans le service des urgences, on peut s'interroger sur le fonctionnement de la société en question. C'est-à-dire, ces gens-là, ils n'ont pas de voisins, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de parents, et donc ils pallient cette absence de vie normale par un recours à la médecine, aux médecins, voire aux médicaments, aux pharmaciens, etc.
Il y a cet aspect.
Vous prenez le contre-pied de votre célèbre confrère, le docteur Patrick Pelloux, là. Dites-nous un peu de mal de lui.
Ah, je ne dis jamais de mal des confrères. Ça, c'est pas possible, ça.
Enfin, vous prenez son contre-pied quand même, parce que lui explique brillamment, d'ailleurs, que les services d'urgence sont misérables, débordés, et qu'il faut.
Pourquoi c'était pas comme ça il y a 10 ans, quand moi j'étais interne, quoi? Parce qu'il n'y a plus de médecins qui sachent faire des gestes de base. Moi, j'ai un de mes camarades, un professeur que je ne citerai pas nom, depuis que les anesthésistes ont pris le pouvoir dans la réanimation et l'urgence, il y a une dégradation de la situation permanente. Il n'y a plus un médecin qui est capable de faire des gestes
minimum, hein, parce que si on apprend maintenant la médecine d'urgence, après on apprend la médecine qui soigne la douleur, et ça va être quoi la prochaine médecine? Celle qui soigne la fièvre, hein, parce que c'est complètement débile, la médecine, c'est fait pour les urgences et pour la fièvre. Un arrêt cardiaque, n'importe qui doit le faire. Indien bien fou, il le faisait sans problème. Mais il n'y a plus dans les pharmacies, moi je l'ai vu dans ville, il n'y a plus un produit injectable. Il n'y a plus un médecin qui produit une, qui prescrit une injection intraveineuse, ni de morphine, ni de digitaline. Comment vous allez en sortir? C'est impossible. Si vous avez un arrêt cardiaque, il faut que le mec, il y a 5 minutes, moi quand j'étais petit dans les Djebel en Algérie, l'urgence, c'est les médecins d'à côté qui savaient tout faire. C'est comme ça encore en Tunisie. Je reviens de la Tunisie, c'est encore comme ça. Et ça devrait être comme ça. Il est inadmissible qu'il y ait des entités comme la médecine d'urgence. La médecine, il n'y a pas de spécialité. Comme disait mes maîtres à la Mayo Clinique, il y a une spécialité en médecine, c'est la médecine. Et elle est suffisamment pas difficile pour la maîtriser. Autrement, la médecine d'urgence, on la prend 3 mois, quoi. Hein, c'est n'importe qui.
C'est bien ce qu'on dit. Il y a un véritable système.
C'est infernal.
Qui a, en quelque sorte, découpé la médecine en rondelles. Et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Mais,
pourquoi les gardes de mon temps, les gardes étaient assurés? D'abord, on a détruit l'internat. Ça, c'est la famille Debré, c'est les spécialistes de l'instruction. On a détruit l'internat des hôpitaux de Paris. Quand on était de garde dans les services de garde, ça fonctionnait, c'était une merveille. Hein. C'était comme c'est au Mass General Hospital ou à Mayo Clinic. Tout le monde était de garde. On était là en 5 secondes. C'était vraiment un sacerdoce. Et puis, c'était des services d'haute technicité. On avait tous une formation du niveau normal sup. Du jour à l'autre, on a fait exploser l'internat comme ils ont explosé le bac. À ce moment-là, ça s'est dilué complètement. Moi, je reste persuadé, comme des collègues des chirurgiens cardiaques américains, que la princesse Diana aurait eu une chance de survie si on l'avait pris, on l'avait jeté dans une salle d'opération de chirurgie cardiaque. Hein? C'est comme ça qu'ils faisaient au Vietnam. Ils prenaient les mecs dans les hélicoptères et leur transfusaient 10 litres de sang et ils réparaient les plaies de l'aorte dans la salle d'opération des porte-avions. Hein? Quoi ça rime, ce cinéma? Quand il y a un trou, il faut fermer. Hein? Et c'est, vous sauvez la vie, vous l'avez au bout du doigt, au bout d'un écarteur, d'un truc de coulée, de machin. Hein? Et cette situation n'existait pas avant. Quand on va à la Salpêtrière, c'est l'infirmerie du Titanic. Hein? Pourquoi c'était pas comme ça avant? Même à Marseille ou à Paris, dans les pires moments où l'hôtel Dieu était de garde au-dessus du panier, tout le monde s'entretuait, c'était jamais on a connu des situations comme ça, jamais quoi.
Une petite anecdote à l'appui de ce que vous dites, il y a quelques années, je circulais dans la Mini Cooper, la petite auto d'une femme médecin très charmante et très distinguée, et puis il y a un ralentissement et on voit un attroupement sur le bord de l'autoroute, et aussitôt elle dit oh là là, le caducé, zoom, c'est-à-dire qu'elle elle me fait signe, je conduisais, j'étais devant, d'enlever le caducé, ça m'a vraiment scandalisé.
Ouais, c'est sûr. Quelle est votre réaction à ce que dit le docteur Plantet, docteur Nuham?
Il y a eu, de toute évidence, nous l'avons tous compris, une certaine évolution de la qualité de la médecine, qui a évolué donc vers l'hyper spécialisation. Le rôle du médecin généraliste s'est considérablement modifié. Donc il est passé effectivement de ce qu'on appelait l'omnipraticien qui faisait beaucoup de choses à un médecin qui se cantonne maintenant dans un rôle en quelque sorte de premier recours et qui va ensuite redispatcher vers les spécialistes. Mais si on revient un petit peu à la médecine d'urgence, le but du livre est d'essayer de montrer l'organisation de la médecine d'urgence en France qui est différente de ce qui se passe dans les autres pays et dont on nous abreuve à la télévision. Vous avez les séries anglo-saxonnes, etc. Bon, qui sont excellentes, mais qui montrent une organisation qui n'est pas celle de la médecine française. Et très souvent, par exemple, quand je suis garde au 15, eh bien les gens appellent et ont l'impression qu'on va tout de suite venir, qu'on va les emmener tout de suite aux urgences, etc. Enfin, tout un système auquel ils se réfèrent dans leur imaginaire et qui n'existe pas en France. Donc, le livre, finalement, dans ce livre, je reprends ce que je dis aux gens quand ils m'appellent. Hein, je leur dis, ben non, vous avez une crise de migraine, vous avez un lumbago, c'est pas la peine d'aller aux urgences. Ah mais si, il faut que j'y aille, c'est là-bas qu'il y a les médecins. Non, non, en France, c'est pas comme ça, on va pas faire comme ça. Je vais vous donner l'adresse du médecin de garde, il est là, il consulte, il vous attend, vous pouvez y aller. Ah, faut que je sorte de chez moi? Ah bah oui, faut sortir de chez vous, il faut y aller, on va pas venir vous chercher pour vous y amener.
Vous voyez où est la problématique? La problématique, elle est souvent comme ça. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer dans le livre. J'explique qu'il y a trois niveaux. La médecine, l'hyperurgence, le SAMU, l'hôpital pour rentrer dans l'hospitalisation, et puis la médecine de ville qui va essayer de prendre en charge tout ce qui nécessite ni l'un ni l'autre.
Alors, vous prenez, il y a quand même des choses surprenantes dans votre livre. Je vois, vous faites allusion, par exemple, vous parlez de l'ictus amnésique, et vous dites, c'est pas justiciable d'une urgence. Pas obligatoirement, enfin voilà, je simplifie abusivement, mais enfin, dites en gros, c'est pas forcément justiciable d'une urgence. Or, c'est vrai que quelqu'un qui a devant lui une personne qui brutalement marque une perte de mémoire immédiate, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, c'est une hémorragie cérébrale, il se précipite sur le téléphone,
oui, il a raison.
Alors, comment il peut identifier un ictus amnésique?
C'est pas lui qui va l'identifier. Ce n'est pas lui qui va l'identifier.
Mais vous, comment vous faites?
C'est au niveau de la régulation. C'est au niveau de la régulation, on va interroger l'entourage, on va voir les circonstances, l'évolution immédiate, etc. Et tout ça, ça va être pris en charge d'une certaine façon, adapté à la pathologie.
Enfin, ce qui apparaît quand même, c'est que je ne le prenais pas du tout pour une critique négative, mais votre livre apparaît comme un palliatif à une situation dramatique de la médecine en France. C'est-à-dire, si on en est réduit à dire aux patients ou aux entourages des patients, n'appelez pas parce qu'on ne peut pas faire face, avant d'appeler, vérifiez que c'est justifié.
Non, c'est pas exactement ça. Non, c'est pas. Je ne dis pas n'appelez pas. Dans le livre, il y a une phrase que je répète plusieurs fois. Je pose une question. Quand doit-on appeler le 15? Je réponds très simplement. Si vous vous sentez en danger, c'est aussi simple que ça. Vous vous sentez en danger, appelez le 15. On vous en voudra pas. Personne ne vous en voudra. Vous allez parler avec un professionnel au téléphone qui va dédramatiser la situation si c'est une simple crise de panique, ou qui va faire appel aux moyens adaptés si c'était vraiment justifié.
En tout cas, j'ai regardé ce livre, moi je le trouve extrêmement intéressant, et je lui ferai un tout petit reproche, c'est qu'en le lisant, je me suis senti dans la situation du personnage de Trois hommes dans un bateau.
Le British, oui, c'est
le ce gars qui lit le dictionnaire médical et qui va voir son médecin lui disant la seule chose que j'ai pas,
c'est l'arthrose des femmes de chambre. Au début, j'étais très vexé, pourquoi cette maladie m'avait-elle épargné? Et après, il dit, j'acceptais finalement.
Mais à part ce tout petit reproche, je dirais que c'est un livre d'abord qui apporte beaucoup d'informations sur les choses que nous, enfin moi je parle vraiment là, je sais pas le docteur Blantet parce que il est médecin comme on le sait, mais le béotien que je suis se dit, ah ben oui, j'avais pas pensé à ça, tiens c'est vrai, il y a tel point qui est intéressant, etc. Donc c'est un livre effectivement, bon par exemple j'espère que vous n'êtes pas à table, mais il y a un chapitre sur les vomissements, bon. Et que faire face au vomissement? Bah, c'est un truc, on ne sait pas ce qu'il faut faire.
Monsieur Propre.
On se contente d'apporter une...
Monsieur
oui,
Propre.
Mais ça il faut vérifier s'ils sont persistants, répétés, etc. S'ils s'accompagnent de fièvre ou pas. Bon, et c'est vrai que quand on voit quand on est confronté à ce genre de situation, eh ben, on prend ça pour une petite indigestion de rien du tout, ou alors on s'affole et on fait venir les pompiers, le SAMU, mettre des pompes funèbres, etc. Puis on s'arrange avec eux.
Si t'avais moins picolé.
Oui, c'est ça. Voilà. Non, je parlais pas pour moi. Et alors, donc c'est un livre. D'ailleurs, ça s'appelle un guide pratique, la médecine des urgences, guide pratique. Quand et comment y faire appel. Et je trouve que c'est un bouquin qu'on doit avoir dans sa bibliothèque, comme dans le temps on avait. Avec la trousse à pharmacie. Ou dans le temps il y avait, vous savez, des bouquins comme ça, comme un livre de cuisine, je dirais, curieusement, hein. Ah oui. Parce qu'il y a toujours le moment où on se dit, tiens, mais combien de temps ça cuit les nouilles? On ne sait pas, donc on regarde, on voit que ça cuit un certain temps.
J'ai un message d'un collègue d'Alger, un interne d'Alger, docteur Julien, qui rappelle les circonstances de garde que moi j'ai connues quand j'étais fonctionnaire d'externe chez professeur Rouen en chirurgie thoracique à Alger, où les urgences, c'était pas trois vomissements, hein. C'était des rafales d'A52 de machin. On a toujours fait face dans des circonstances qui étaient dramatiques, quoi, oui. Hein. Mais il y avait des gens, les internes de deuxième année, ils avaient une qualité d'opérateur qui était inestimable, quoi, hein. Ce qui fait que c'était une médecine totalement élitiste, comme elle l'était d'ailleurs dans les autres hôpitaux militaires, et on faisait face à des trucs destructeurs, quoi.
Ce que vous disiez tout à l'heure, on n'appelait pas le 15, on prenait le blessé, on le foutait dans la voiture et on l'amenait à l'hôpital. l'hôpital.
Avant, il y avait des médecins qui connaissaient au moins un peu la médecine.
Bah, vous savez quand même que le SAMU a quand même été conçu au départ un petit peu en imitation des principes de la médecine militaire. Quand même.
Ouais, ouais, c'est possible, ouais, ça peut être
on a appliqué la médecine militaire aux civils de façon à leur porter secours sur le lieu de l'accident au lieu de les faire venir. C'est une option, ça c'est l'option française par rapport aux anglo-saxons.
Mais c'était transposé.
Pour le malade lambda, moi, je sais pas, il me semble que c'est plus sympathique d'avoir un médecin qui a un stéthoscope autour du cou plutôt que de savoir qu'on a une téléphoniste à l'autre bout. Et puis voilà.
Mais oui, mais vous êtes de ceux qui croient que la médecine militaire est à la médecine, ce que la musique militaire est à la musique.
C'est ça. Non, moi, je crois en Dieu, moi, ça m'aide pour être guéri.
En tout cas, je recommande vous prenez ce livre, vous n'êtes pas obligé de le lire tous les soirs parce que vous avez passé quand même des moments délicats. Moi, l'air que là, chaque fois que j'ouvre une page, je me dis, oh là 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 là, mais ça va très très mal. Sauf les piqûres d'insectes, parce que pour l'instant, je n'en ai pas.
Il faut avoir payé son téléphone, attention.
Non, si vous ne payez pas le téléphone, vous pouvez faire le 15 quand même.
Numéro
d'urgence. Ah bon, le 15, le 18, le 112.
Après, il y a le cri d'alarme par même, la fenêtre. Au secours, un peu plus, comme à Marseille. Quoi.
Voilà, donc c'est un livre du docteur Philippe Nuham, Nuham, La médecine des urgences, guide pratique, quand et comment y faire appel. Et le moins souvent possible, bien entendu. C'est tout le mal que je vous souhaite.
Il y a sûrement un éditeur et un prix, Serge.
Il y a un éditeur, bien sûr. Pardon, c'est les éditions du Dauphin. Et le prix est de 15 euros, ce qui n'est vraiment pas cher, parce que c'est un bouquin...
C'est Mémomatique, 15.
Oui, ouais, en plus, voilà, c'est ça, Mémomatique, comme vous dites. Et donc, là-dedans, vous avez tout, et vous pouvez même tout savoir sur les douleurs articulaires, les médicaments de la douleur, les crises de calcul... Le mal de ventre, qui appeler après un traumatisme, que faire en cas de perte de connaissance, gifler violemment la personne. Non, c'est pas bon ça, je crois. Que faire en cas d'allergie, les saignements, les douleurs testiculaires, je ne sais pas de quoi il s'agit, les vertiges, les palpitations, tachycardie, etc., etc. Quand le cœur s'affole, c'est juste avant les douleurs testiculaires.
Je trouve que c'est graveleux.
Merci docteur. Je blague beaucoup, mais je vous conseille d'avoir ce livre quand même juste à côté de la boîte à pharmacie, parce que c'est vraiment utile. Ou alors autrement, vous appelez le docteur Planté, il arrive tout de suite, quelle que soit l'heure du jour.
Dans un petit auto.
Mais je ne donnerai pas son téléphone. Chaque fois que je parle du docteur Planté, on me demande son téléphone.
Ça fait longtemps que j'en ai plus de téléphone.
Non. Merci beaucoup.
Merci, bonsoir.
Docteur. On va écouter un bobino qui nous est cher.
Un joli bino, on dit.
Ah oui, un joli bino qui nous est cher.
Le 6 novembre, nous célébrerons le 18e anniversaire de Radio Courtoisie. Nous fêterons ensemble la langue française. Dimanche 6 novembre, si vous êtes adhérent de notre association, venez déjeuner avec nous à la Maison de la Mutualité. Nous élirons le lauréat du prix Daudet. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 50 euros par couvert à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 6 novembre à midi, pour déjeuner ensemble à la Mutualité et décerner le prix Daudet 2005, 18e anniversaire de Radio Courtoisie.
Voilà, c'était donc l'annonce du grand déjeuner de Radio Courtoisie, non pas de dîner comme je le dis à chaque fois, mais bon, le grand déjeuner de Radio Courtoisie, et qui sera suivi du deuxième tour de l'élection pour le prix Daudet. Deuxième tour dont je sais maintenant de façon certaine et que Victoria sortira
titulaire.
Il m'énerve.
Non, mais écoutez, on vous demande pas votre avis.
C'est sûr qu'on me l'a pas demandé.
J'appelle mes supporters à voter Victoria.
Plébiscité.
Non, ils vous suivront pas, nos auditeurs sont intelligents. Voilà.
Justement. Pourquoi vous n'auriez pas... Écoutez, vous avez tous les avantages. Vous êtes une femme. Vous causez un français... Parfait.
Oh, comment qu'est-ce que c'est ?
En plus, je trouve que vraiment, pour rendre, je l'ai déjà dit, mais rendre hommage à cette magnifique Corporation des instituteurs ETRIS.
Oh, d'autres fois.
J'invite
peut-être
les auditeurs ETRIS, françaises, à voter pour Victoria.
Vous voulez pas que je fasse des petits annonces?
Si, allez-y, faites des petits annonces.
Ah, voilà. Alors, il y aura une messe. Fini par la messe, non, d'accord. Alors, le samedi 15 octobre, 15e marche pour la vie, organisée par Renaissance catholique, marche au flambeau. Rendez-vous 17h30 devant Notre-Dame des Victoires, place des Petits Pères, métro Bourse. La marche se termine à la basilique du Sacré-Cœur par un salut du Saint-Sacrement à 20h.
Au Saint-Sacrement.
Un salut du Saint-Sacrement.
Moi, non, mais elle est laïque.
Malheureuse. Bon, messe traditionnelle de Requiem pour la reine Marie-Antoinette. Vous voyez bien que je ne peux pas avoir le prix, comme vous dites là. Messe traditionnelle de Requiem pour la reine Marie-Antoinette, place de la Concorde, dimanche 16 octobre à 15h15. Messe célébrée par l'abbé Néry et l'abbé Michel. Et puis, le Centre d'études et de prospectives sur la science, le CEP, annonce le colloque d'Angers les 15 et 16 octobre sur le thème « La finalité dans les sciences et dans l'histoire ». Je ne donne pas les nombreux invités, il y en a des quantités industrielles. Ce serait
mais dont le docteur Plantet.
Dont le docteur Plantet.
Oh, ben,
qui prononcera une conférence tout à fait passionnante, mais sur, je le sais parce que je connais le sujet, enfin je connais le sujet, il m'en a parlé parce que moi je ne connais rien à rien, bioélectricité humaine, le retour du vitalisme. Alors ça n'a l'air de rien, mais François, vous pouvez peut-être dire en deux mots.
J'ai développé les travaux de Robert Baker, qui est un professeur d'orthopédie à l'INSA New York à Buffalo. Je résume, hein. En gros, c'est comment faire repousser des yeux chez les aveugles, des membres chez les manchots, des machins comme ça. C'est-à-dire, c'est prodigieux. Il a réussi quand même à faire repousser partiellement des membres chez des animaux qui régénèrent pas, avec un dispositif qui doit coûter à peu près 5 centimes. Quoi. Il faut une pile Vondeur, 3 mètres de fil de cuivre et un machin.
C'est,
quoi.
C'est voilà. Une chose extraordinaire.
Et c'est d'une et simplicité est... totale, comme l'est toujours les opérations de la vie, à côté des scanners qui, pour des milliards, donnent aucun renseignement intéressant. Enfin.
Et c'est complètement banni du débat.
Ah, mais c'est interdit parce que
c'est
formellement
sur le vitalisme qui est le
Volta
prime
a été
absolu.
Suscité contre Galvani pour casser l'idée qu'il puisse avoir des courants électriques dans l'organisme autres que des mouvements d'ions, ouais. C'est-à-dire des courants continus qui sont ceux de tout le système d'acupuncture que Robert Beck il avait une médecine tellement lourde, la chirurgie c'est orthopédique, ça le protégeait, qu'il a pu sous couvert de la régénération, travailler sur des terres totalement interdites, hein, et notamment par hasard redécouvrir tout le tracé des méridiens d'acupuncture en s'apercevant que c'était des semi-conducteurs comme des transistors. C'est un truc fabuleux. Hein.
Alors Serge, rappelez-nous, les auditeurs qui peuvent pas obtenir le numéro de téléphone du docteur Plantet et qui souhaiteraient lui soutenir une consultation gratuite, où doivent-ils se rendre?
Alors ils se rendent au colloque d'Angers du CEP. Le 15 et 16 octobre,
pitié.
Dont le sujet est la finalité dans les sciences. Il n'aime déjà pas travailler en étant payé, alors gratuitement, je ne vous dis pas.
Peut-être que j'irai pas.
La finalité dans les sciences et dans l'histoire. Samedi 15 octobre, donc il y aura Benjamin Guillemin, le principe de subsidiarité et ses applications, Christian Bizouard, l'harmonie du cosmos, le docteur Plantet. Vous irez parce que autrement
c'est lui.
Je me demande si je n'ai pas un concours de quick step ce jour-là.
D'accord. Bioélectricité, j'irai vous siffler personnellement si vous faites ça.
Vraiment.
Bioélectricité humaine, le retour du vitalisme. La finalité du pouvoir dans la monarchie française par le docteur Jean-Pierre Brancourt. Les finances publiques, quelle utilité et quelle finalité par le professeur Patrick Raymond. Présentation de l'ouvrage des mégalithes au clocher Thor, T-O-R-S, le clocher Thor. Ça a tordu, par le père Alexandre Perrault. Et le dimanche, Benoît Gandillot présentera des conférences qui moi me passionnent. Les âges des patriarches bibliques ont-ils un sens? Dominique Tassot, non mais ne riez pas parce que vous allez gifler. Dominique Tassot parlera de la religiosité scientifique moderne de Haeckel à Teilhard de Chardin. On en a parlé il y a pas longtemps. Guy Berthaud, monsieur Guy Berthaud, si les hommes se taisent, les pierres crieront. Guy Berthaud, c'est le spécialiste de la stratigraphie. Et le professeur Ness consacrera sa conférence à l'œuvre de Joseph Malegue, Une littérature, méditation des plus hauts mystères. Alors que c'est vraiment tentant, moi.
Celle-là, elle est vraiment substantielle. Ah, oui. Enfin,
et alors, je signale, ça monde. C'est notre minute de gnosticisme, la magnifique revue du Centre européen des mythes mythes et des légendes. C'est une revue qui s'appelle Liber Mirabilis. Non, mais je vais vous la prêter, vous allez voir ce que c'est. Okay. C'est un modèle d'intelligence et de beauté. Elle est belle, cette revue, qui est faite par Jean-Marc Savary. Célèbre son 20e anniversaire. Et donc, on peut, pour nos auditeurs du Grand Sud, parce que ceux de Paris peuvent descendre aussi, mais enfin, ça se passe à Carcassonne, qui est aussi une ville assez intéressante, pour plusieurs raisons. Donc, le 8 octobre, de 16h à 19h, à l'occasion d'une signature de plus de 20 auteurs chez Cultura, au lieu dit Ferraudière, à Carcassonne, on célébrera avec les libations d'usage le 20e anniversaire de cette très très belle revue. Et les auditeurs de Radio Courtoisie Grand Sud sont vraiment très très amicalement invités par Jean-Marc Savary. Le téléphone pour avoir des renseignements, 04 68 26 72 80.
Dernière annonce.
72 80.
Alors, pour avoir des informations sur Liber Mirabilis, il faut, si on a le net, il faut faire liber-mirabilis.com.
Une dernière annonce. Les 8 et 9 octobre prochains, toute l'équipe, ou presque, du Libre Journal, sera heureuse de vous retrouver au BBR, au Parc des Expositions Paris-le-Bourget. On descend, c'est le plus simple, hein, au RER Le Bourget, puis il y a une navette gratuite.
Ne regarde pas comme ça, moi je fais les vendanges à Montmartre, c'est dans les fonctions de membre de la commanderie du Clos Montmartre.
Je ne voulais pas dénoncer le déserteur, mais voilà, puisqu'il se dénonce.
Lâche-moi la grappe, mais je suis.
Il y a la réunion du CEP et puis il y a le. Et vous n'avez rien à nous raconter d'amusant parce qu'on a presque terminé.
Je vais faire les vendanges vendredi et samedi. Vous me prenez de court. Oui, je disais tout à l'heure que le comte de Paris se présentait à la présidence de la République et le premier acte de son programme, c'est de supprimer les impôts sur le revenu. Alors on peut peut-être commencer à se pencher sur la question. Je vais demander s'il y a quelque chose de drôle à raconter.
Oui, non, mais vous êtes sûr que quand on parle d'impôt sur le revenu, il ne croit pas que c'est à lui qu'on va faire payer des impôts parce qu'il revient?
Ah, je ne sais pas, oui.
C'est
pour ça. Il faudra poser la question.
Bon, donc, votez pour
le prince.
Le prince et le duc de France.
C'est ça, duc de France, oui.
Bien, beau titre. Voilà, c'est tout.
Ben, je ne sais pas, posez-moi une question.
Oui. Ça vous paraît sérieux, cette candidature? Vous croyez
écoutez, en tout cas, c'est annoncé dans Point de vue Image du Monde.
Alors. Eh bien, je vais vous dire. Moi, je crois qu'elle est très sérieuse et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a poussé Villiers contre Le Pen, ça c'est parfaitement clair.
C'est évident.
Et maintenant, ils se disent que Villiers risque d'être un peu encombrant. Alors, on va lui mettre quelqu'un dans les pattes. Et il est évident que si le duc de France se présente, il va y avoir de nombreux royalistes orléanistes, et voire légitimistes, qui vont se dire, oh, pour une fois qu'on a la chance de voter pour un roi, même nos ancêtres n'avaient pas le droit de voter pour le roi. Donc, nous, on réunit comme ça les avantages de la République et les avantages de la monarchie. Donc allons voter pour le roi. Et il pourrait faire un beau score avec des voix naturellement piquées à Villiers, lequel a piqué les voix réalistes à Le Pen. Et on organise comme ça l'éparpillement des voix et on va se retrouver avec Sarkozy et Villepin comme président de la République et ça va être un vrai bonheur.
Ça va être le roi, mais d'autres choses.
Ah tiens, à propos, non, un mot quand même avant. Il y a un des candidats, je vous dirai pas plus parce que ça serait indiscret de ma part, un des candidats potentiels qui est en instance de divorce, qui a organisé une rencontre avec son épouse, et ils se sont énervés l'un à l'autre. Si bien que lui, il a mis un bourre-pif, et elle est allée au commissariat, elle a fait porter plainte, et elle a un magnifique certificat par un médecin qui lui a dit qu'elle avait pris un bourre-pif, et maintenant elle attend que les choses s'arrangent, autrement, au moment de l'ouverture de la campagne, l'autre va se prendre dans le canard enchaîné la copie du certificat de madame, voilà.
Il a lu mon chef-d'œuvre, célèbre,
il a eu tort de lire Goffman et il est exécuté.
Il va avoir tout l'électorat féminin.
Puisque vous parlez du canard enchaîné de point de vue, le canard ne cite point de vue que pour s'en moquer. Et là, il les cite très très sérieusement parce que point de vue a démontré avec étude à l'appui que la particule de Villepin était bidon, celle de Bernadette aussi, et que par contre, Sarkozy, il faut prononcer comme ça, paraît-il, est un authentique aristocrate. Ah,
cela dit, la particule n'a jamais été une preuve de noblesse.
Non, c'est clair.
C'est la partie tête.
Voilà, c'est ça. Merci à tous. Bonne semaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lebeketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 octobre 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 6, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie.